Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 19 novembre 2011. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h FMR, cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la sitcom que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Recevoir d'ailleurs pendant l'automne, pour vous donner un peu une idée du programme, c'est qu'on va avoir au moins deux extérieurs, peut-être trois, peut-être quatre, je n'en sais trop dans l'immédiat.
Précédemment, nous sommes le samedi 1er octobre 2011.
Le 25e festival de la BD de Colomiers, 18, 29, 19 et 20 novembre, la radio est partenaire, nous serons normalement en direct là-bas. Pénélope Bagieux est la, comme ils disent, la super invitée. Et le planning est un peu disponible, je pense, dans toutes les librairies BD en ville, ainsi qu'évidemment à la radio. Si vous passez nous voir, n'hésitez pas.
Précédemment,
samedi 8 octobre.
Pour novembre, des trucs costauds quand même, hein. Printemps de la radio. Ah si, attends, on sera à Colomiers, on...
Précédemment,
samedi 15 octobre 2011, préparez-vous dans 8 émissions, la 300e.
Et avant ça, on sera en direct à Colomiers.
Précédemment,
22 octobre 2011,
seront... Non, pardon, je me suis trompé.
En Colomiers, ouais.
Oui, bon, d'accord, ok, nous serons aussi en direct d'ailleurs.
Précédemment, nous sommes le samedi 29 octobre 2011.
Sachant que le 18, le 19 et le 20 novembre, c'est le 25e salon de la bande dessinée de Colomiers, avec en invité Pénélope Bagieux, et théoriquement nous faisons émission en direct de là-bas. Donc
précédemment,
samedi 5 novembre 2011, 18, 19 et 20 novembre, le 25e salon de la bande dessinée de Colomiers, avec en invité numéro 1, Pénélope Bagieux, Pénélope Jolicoeur.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Et oui, effectivement, comme nous vous l'annoncions depuis près de 5 mois, nous sommes en direct du 25e festival de la bande dessinée de Colomiers qui s'est ouvert hier et se clôturera demain au Hall Comminges. Alors ça, c'est ce que nous vous aurions dit normalement, mais suite à des erreurs de communication et d'organisation venant des deux côtés, et je dis bien des deux côtés, notre présence au sein du festival n'a pas été possible. Alors, nous ne reviendrons pas sur les raisons de ce dysfonctionnement, qui ne concerne pas nos amis auditeurs, mais quand même, si le supplément week-end, quand même l'une des rares émissions radio parlant de bande dessinée, sur Toulouse, c'est-à-dire pas à Rennes, pas à Marseille, pas à Strasbourg, non, sur Toulouse, est diffusée en plus sur LA radio partenaire de l'événement FMR, de peut-être animée en direct du festival, c'est qu'il y a quand même un truc de travers. Alors je rappellerai tout simplement, sans relancer la polémique, que nous sommes des bénévoles. Des bénévoles. Ça veut dire quoi? Que nous sommes animés avant tout par la passion, même si notre totale liberté de ton, alors ça c'est sûr, fait que nous pouvons chroniquer nos coups de cœur, balancer sur des bouses ou nous faire plaisir sur des films exotiques de nanas à poil ou de requins mutants, ça c'est très rigolo. Le bénévolat demande surtout un sacré investissement. Alors oui, nous sommes des passionnés, donc des grands sensibles. Bah ouais, et oui, ça surprend. Et par chrome, le sang chaud va avec. Dans cette affaire, nous avons eu l'impression qu'on s'est moqué de nous et de s'être fait suer des caligas sur la tronche. Et quand un guerrier est blessé, il fait quoi? Bah, il se met en mode berserker. Alors oui, on est parfois des bourrins, des excessifs quand on aime, mais par contre, quand on est fâché, ça peut créer du dommage collatéral. Ah bah tiens, tant qu'on parle de passion, hey, on va en profiter pour rendre hommage à des vrais passionnés, des instances qui se plie chaque fois en 8 pour que nous soyons accueillis dans les meilleures conditions. Allez, le Festival Extrême Cinéma, en ce moment du 15 au 20 novembre, rue du Thor, le thème, l'hôpital et ses fantasmes, bravo à eux.
Le Festival Toulouse Game Show, les 25, 26 et 27 novembre à l'espace Diagora à la Bège. Et le 39e Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême et surtout le Conseil Général de la Charente qui se plie. Alors vraiment là, c'est en 15 ans, 35, du 26 au 29 janvier 2012 pour accueillir une petite radio toulousaine.
Oui, on les remerciera jamais assez en tout cas. Néanmoins, pour en revenir avec Colomiers, donc la radio sera en direct à 15h si je me trompe là-dessus. Mais surtout, nous avons quand même pas souhaité jouer les boudeurs ou quoi que ce soit, parce que bouder, c'est pas joli. Et nous avons quelqu'un sur place, Nicolas.
Oui.
Bonjour, Nicolas de Prater d'ActuaBD, donc qui se trouve être à quoi ? À 15 km de nous, donc on applaudit bien fort pour ce direct téléphonique, bravo. De très haute qualité.
J'ai presque entendu les applaudissements.
Bravo. J'espère en tout cas que tu apprécies quand même ce magnifique temps pourri que l'on a à Toulouse.
Quoi ? J'ai un magnifique ciel bleu.
Ah bon, il me semblait. Non, nous, pour nous, il fait un petit peu froid, tu vois.
Mais faut l'excuser, il vient de Lille, alors pour lui, c'est un ciel bleu. Enfin, c'est
relatif. Non, le ciel est vraiment bleu.
D'accord, il sursature ce Photoshop là-bas. D'accord.
Alors, comme nous, on ne parlera pas du salon BD de Colomiers qui en est à sa 5e édition, donc c'est à toi, du coup, que revient tout simplement le fait d'en parler.
D'accord, ce qu'on peut en dire, c'est que le festival a décidé de s'étendre un tout petit peu, donc il est maintenant présent dans 3 bâtiments différents, et un petit peu dans la rue aussi. Donc bien sûr, on a toujours le hall Comminges, qui regroupe des fanzines, des éditeurs, des éditeurs indépendants, des petits éditeurs locaux, et qui présente une ou deux expositions. Alors par exemple, on a l'exposition principale qui est singulier, pluriel, présentée par Les Requins Marteaux, Frémok et Zoo Chipucci, 3 éditeurs indépendants, et où chaque maison d'édition, en fait, un de ses auteurs a réalisé un visuel de grande taille qui est présenté sur des bâches plastifiées. Donc ça donne une grande pièce avec 6 grandes bâches et sur différents tons. Mais et aussi la présence des 3 maisons d'édition, donc avec des stands avec leurs livres. Malheureusement, je trouve que la pièce est un peu grande pour le contenu. Ça aurait peut-être été bien, comme je vais le dire plus tard dans mon article, de présenter d'autres travaux de ces auteurs pour ne pas donner un avis définitif de leur travail sur un seul dessin.
D'accord.
Ensuite, on a l'exposition Little Big Planet de Credo quelque chose, j'ai oublié le nom de. C'est des jeunes.
Pour une fois que c'est pas moi.
Des Beaux-Arts d'Angoulême. Pardon.
Pour une fois que c'est pas moi qui oublie.
C'est pas Choco Creed.
Pardon.
C'est pas Choco Creed.
Si, voilà, Choco Creed, tout à fait. Voilà, donc trois potes à la base issus des Beaux-Arts d'Angoulême qui se sont un peu dissociés de ça pour créer leur univers Little Big Planet, Little Big Bang, pardon.
Oui, Little Big Planet, c'est les jeux vidéo.
Voilà, c'est pour ça, oui. Little Big Bang, une série en 3 tomes, 3 one-shots, en fait, qui sont liés par le fait que ça se déroule dans le même univers. Donc, c'est de la SF, jeunesse, avec beaucoup d'humour référencé pour les plus vieux. Il y a du Indiana Jones, du Alien. Ils ont réalisé vraiment une exposition. Alors là, c'est vraiment l'inverse de l'autre. C'est hyper chargé, mais alors ça rend très bien, c'est visuel. C'est-à-dire que les dessins originaux sont dans des cadres qui ont été réalisés spécialement pour l'occasion, avec des matériaux différents. Il y a un canapé démoniaque en papier mâché.
Ah, excellent.
Ça donne envie. Bon, on ne peut pas s'asseoir dedans, malheureusement. Il y a des peluches qui ont été faites, des sculptures. Et vraiment, ils ont essayé de donner une consistance à leur univers qui ressort très bien. Et c'est vraiment une exposition à aller voir.
Attention, ne te charge pas trop en goodies pour l'avion. Après, tu vas te charger, hein.
Non, je suis sage. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Ben, comme je disais, on a des studios, des maisons d'édition. Donc, par exemple, j'ai été voir Macaca Édition qui a sorti récemment le tome 2 de Norman, qui est vraiment la série à lire quand on aime les petits enfants tueurs. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti aussi récemment? Bah oui, 1 an sans Internet.
Oui, par Ced.
Alors là, j'ai été énormément déçu car l'auteur m'a avoué que ce n'est qu'une fiction.
Oh.
Non, mais on le connaît, il est vraiment trop drogué du net pour ça, donc c'est un peu normal.
Voilà, non, sinon, alors après, comme je le disais, ça c'est le Hall Comminges, qui regroupe aussi, qui présente aussi l'exposition chez Pénélope. C'est-à-dire que Pénélope Bagieux, invité d'honneur de ce festival pour avoir gagné l'année précédente le prix, alors qui n'est ni le prix découverte, ni le prix jeune talent, et c'est le troisième prix dont je ne me souviens jamais du nom. Mais bref, elle a gagné ce prix et ça lui a permis une présence principale sur le festival. Et donc, elle a décoré, elle a présenté avec des scénographes certaines pièces rêvées de sa maison. C'est-à-dire qu'on a les toilettes, la chambre, enfin le lit, les toilettes, le lit, la baignoire et le petit salon. Et en fait, dans chacune de ces pièces, le thème, c'est des pièces où l'on peut lire. Et donc dans ces pièces qui ont été décorées selon son univers qu'on connaît via Bagieux, peut-être un peu girly, chic, tout ça, on a des BD. Donc il y a par exemple Watchmen qui trône fièrement dans le lavabo de la salle de bain.
D'accord.
Et donc les gens peuvent s'arrêter pour y lire des livres après avoir déambulé dans le salon.
Est-ce qu'elle est habillée en juste au corps moulant avec une cape jaune comme l'augurait l'affiche, ou est-ce que c'est une pub mensongère?
C'est une pub mensongère, elle a une jolie petite robe, mine de rien, mais bon, ça va.
D'accord.
Après, bon. Je pense qu'elle ne se souvient pas de ma mésaventure à Angoulême, donc...
Nicolas de Prater pour Actua BD, merci d'avoir assuré, du coup, le minimum pour le supplément week-end.
Ouais, et comme je le disais, l'expo ne s'arrête pas au Hall Comminges. Dans la rue, il y a des expositions sur des panneaux, sur les labos dans les bulles. Donc à chaque fois, c'est une association entre un auteur qui débute et un scientifique, alors que ce soit un archéologue ou ce genre de choses. Il a suivi, par exemple, l'un d'eux a suivi un archéologue, ensuite a créé un récit sur ce qu'il avait trouvé. Et on a l'expo Road Trip, qui présente à chaque fois sur des 4 panneaux des travaux d'un auteur. Et ça par contre, le problème, c'est que des gens, n'importe qui peut avoir accès à ces panneaux, c'est-à-dire qu'ils sont pas sous vitre ou quoi. Et donc, par exemple, il y a une suite de 4 panneaux, liberté, égalité, fraternité, réalité, où la dernière main est en fait un donneur, tandis que les autres sont des mains, par exemple, des mains tendues en l'air, ce genre de choses. Et des gens, donc, qui n'étaient pas trop d'accord avec cette idée, ont déchiré l'affiche.
D'accord.
Voilà.
Bon esprit.
Et pardon ?
Non, je disais, c'est une plaisanterie, je disais, bon esprit, super.
Apparemment, les auteurs le prennent pas forcément trop mauvais, parce qu'ils en disent qu'à partir du moment où ils le mettent dans la rue, ça devient un don au public, et donc le public continue l'œuvre. Voilà, c'est une façon de voir les choses.
D'accord, c'est du happening,
alors. Pardon ?
Je disais, c'est du happening.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et sinon aussi, le bâtiment à voir, c'est la nouvelle médiathèque de Colomiers, intéressante, dans lequel il y a les salles de conférences... présente les différentes conférences liées au salon et qui a vraiment un énorme contenu au niveau BD et exposition. Vraiment sympa à aller voir.
Bon, mais merci Nicolas. Sinon, est-ce que tu as prévu de visiter la région ? Est-ce que...
La région Toulouse, 3 jours, sachant que je suis sur le festival, je pense pas que je vais avoir beaucoup de temps de visiter, mais bon, ça... J'aurai le temps une autre fois, je crois.
D'accord.
Ouais. Bon. Bah écoute, de toute façon, tu sais que comme d'habitude, tu es le bienvenu. On espère qu'on sera, nous, à Colomiers, à Angoulême.
Oh, lapsus.
Lapsus.
Bravo.
Voilà, celle-ci, elle est dite.
À savoir que depuis hier soir, Colomiers est devenu l'Angoulême du Sud. Hein. Oui. Angoulême n'est plus que l'Angoulême du Nord.
Tu vas me faire obliger de mentir quand même la promesse que j'avais faite de ne pas revenir là-dessus. Si c'est le discours du maire, c'est exactement le même que celui qu'a fait en 96 et sur lequel il s'était bien fait laminer par la presse de l'époque. Donc c'est un petit peu dommage.
C'est ce qu'a dit le maire, et l'organisatrice ne savait vraiment plus où se mettre, qui est aux commandes cette année. Mais bon, c'est les politiques, on leur pardonnera. Hein.
Oui, parce qu'il y a aussi une rivalité pour savoir quel est l'Angoulême du Sud, de l'Ouest, etc. Puisqu'il y a aussi Saint-Malo qui se veut dans les sentiers d'Angoulême. Donc,
surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'époque où Colomiers était le seul salon BD sur Toulouse est révolue, que maintenant, rien qu'à Toulouse même, on a 3 salons BD.
Et, ouais.
Et que, un Colomiers commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de visibilité. Ça, évidemment, ça gêne un peu.
Ah, mais je pense qu'avec la nouvelle organisatrice là, qui a l'air de vraiment être motivée, il y a possibilité que ça se... ça gagne des parts.
D'accord. C'est sur les sages paroles de Nicolas de Prater qu'on n'en dira pas plus. On te remercie. Tu es le bienvenu quand tu veux. Et ben, on espère faire quelque chose.
Attends,
avec toi.
On fait un peu de pub pour notre ami. Donc, si vous voulez lire ce que le bonhomme écrit sur la bande dessinée, vous allez sur le site de notre partenaire qui s'appelle actuabd.com. Voilà. Et guettez le début de semaine prochaine, puisqu'il y aura certainement des articles de Nicolas sur le festival.
Tout à fait. Et puis moi, je vous dis sûrement rendez-vous à Angoulême.
D'accord.
On espère bien, en tout cas. Merci à toi, Nicolas.
Merci
Ciao.
Beaucoup.
Au revoir.
Ciao. Un rouge et noir. Ta 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 ta.
C'est le titre de l'album là qui te fait chanter comme ça.
Oublier les paroles.
Ouais. Ouais, c'est pas sympa pour Jeune Masse quand même.
Mais je regarde trop l'émission de Nagui, c'est pour ça, n'oublie pas les paroles. Pardon.
Tu ferais mieux plutôt de regarder Later with Joel Holland de suite, c'est beaucoup 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 mieux.
Les quoi?
Sur la Bible. Sinon, on va entamer les sorties bande dessinée toujours sur le régional avec Zampano au scénario et Duvigan au dessin. Le rugby en rouge et noir. Le premier tome s'appelle Coup d'envoi et est sorti chez Hugo BD. Lucien Maki Feunua a une chance incroyable. À 13 ans, venu d'un très lointain archipel au milieu de l'océan Pacifique, le voici qui débarque en France, recruté par un club sportif. Et dans une atmosphère froide, neigeuse, humide, limite glaçante, même si c'est à Toulouse, il y a quand même un hiver. Oui, je dis ça pour ceux qui habitent en dehors de notre zone de diffusion. On a en moyenne 15 jours de neige tenace en février. Un temps à ne pas tenter de faire traverser le pont neuf à un bus. Après, ça reste relativement soft. Bref, il a neigé sur Toulouse et Lucien est livré à lui-même. Personnellement, je craignais une mise en avant sans scénario du Stade toulousain. Finalement, l'histoire est là, avec un peu de pathos, soit, mais pas un script totalement laudatif. Un jeune talent de Wallis et Futuna, téléporté à Toulouse, loin de sa famille, et pas forcément bien accueilli de la part des locaux, de par sa couleur de peau. Pas très tendance auprès du ministère de l'Intérieur en ce moment, c'est vrai, il faut le dire. Ou de par son talent, parce que quand même, le jeune n'est pas trop mauvais. Et dans sa famille d'accueil, il est révélateur de friction. Je m'attendais à pire, à bien pire. Et finalement, le rugby est un petit peu annexe à l'histoire. Bien évidemment, les dirigeants du Stade toulousain auront le beau rôle, l'équipe fera office de famille et l'esprit sportif qui prédominera sera le fair play. Mais étonnamment, ça jure beaucoup moins qu'avec une équipe de footballeurs de Ligue 1. Pourtant, le Stade monte régulièrement dans les plus grandes équipes européennes. Qu'on explique le rugby, c'est pas comme le foot, c'est ça? Le succès ne leur monte pas forcément à la tête? Hélas. Le simple fait qu'on rappelle que cette équipe, comme d'autres, va chercher très loin ses futurs talents, c'est un peu la preuve que l'argent a changé bien des choses dans ce sport, et pas forcément dans le bon sens. Alors on espère que la légende dorée entretenue par cette BD n'est pas complètement du flanc. Alors, je dirais que c'est un essai à demi transformé et que c'est quand même proche du poteau. Graphiquement, ce n'est pas forcément d'un haut niveau. Le dessin, parfois un peu rapide, ne manque pas de maladresse ou de caricature poussée. Après, c'est une série qui fera sûrement plaisir à plus d'un jeune amateur du ballon ovale. En insistant sur la qualité première de ce sport, la convivialité. Car, et je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, si les joueurs ont le droit de baffer leur adversaire, ils se retiennent car c'est quand même couillon de gâcher la troisième mi-temps pour un jeu. Zampano scénario, Duvigan au dessin, le rugby en rouge et noir, et donc le premier tome s'appelle Coup d'envoi, c'est chez Hugo BD.
monsieur. Oh.
Merci les micros. Bonjour, vous êtes sur Radio FMR 89.1, Radio Alternative. Tony Sandoval au scénario, c'est quelqu'un dont on avait parlé pour Dumb Boy, qu'on avait beaucoup aimé. Pour moi, il m'avait franchement littéralement transporté. Je suis loin d'être le seul à avoir dit autour de cette table sa mélancolie, sa poésie, son graphisme. C'est très simple. En restant sur la plage, il nous a fait chavirer. J'ai pas hésité à le mettre dans mon vote pour le prix critique de la CBD et je regrette franchement personnellement qu'il n'ait pas passé le second tour parce que c'était vraiment un très bon bouquin. Là, cette fois-ci, il ne fait que scénariser. Le dessin est signé Gracia Lapadula. Je vais y arriver. Gracia Lapadula. Et c'est une histoire en deux tomes qui s'appelle Les Échos Invisibles, dont le premier vient de sortir dans la collection Calamar aux éditions Paquet. Et c'est une nouvelle histoire qui est une réécriture d'un précédent album, Le Partage d'Essence, de Pierre Van Loffé et Svald. L'album original était très contemplatif et avait un graphisme très réaliste. Dans cette reprise, on a tout au contraire, un dessin qui casse le réalisme, donne une patine réellement originale au personnage, tout en ayant moins de raideur dans les mouvements. De plus, la Paluda n'hésite pas à utiliser des techniques différentes suivant ses planches. Il est difficile d'arriver à discerner si c'est son graphisme superbement onirique qui a inspiré Tony Sandoval, ou l'écriture de ce dernier qui a su magnifier le style de la très belle dessinatrice italienne. Celle-ci a d'ailleurs obtenu le prix Jeune Talent à Angoulême en 2007. Mais parlons de l'histoire. Une photo volée dans un parc, et c'est un amour indéfectible entre le photographe Baltus et Monica, sa modèle impromptue. Couple définitivement séparé suite à une brusque maladie. Cette mort a définitivement changé la vie de Baltus. Suite à cette triste expérience, il a des hallucinations. Il ne voit plus les gens comme ils sont, mais comme ils seront. Une vraie malédiction. C'est pour ça qu'il s'est isolé dans une de ces côtes de l'Italie qui semble découpée hors du temps, hors des lieux. Là où on ne l'embêtera pas, sauf que sa malédiction est aux yeux d'autres personnes un véritable don. C'est le cas d'un touriste qui a eu sa jambe cassée dans une crique sauvage, secouru grâce à la clairvoyance de Baltus. Quelques années plus tard, cette histoire fera venir une journaliste d'un grand quotidien new-yorkais. Encore une fois, c'est la fragile frontière entre le monde des hommes et celui des défunts qui a inspiré Tony Sandoval. Le graphisme faux, exagéré, mais incroyablement touchant de Gracia Lapadula a su parfaitement s'y associer. C'est tout simplement beau et touchant. Thomas, il est en train de le découvrir et il a dit « Oh, encore !» Et quand je lui ai dit « Ben, je vais parler de ça et... »
Ouais. Ah ben, moi, je suis méga fan de Sandoval, de toute façon. D'ailleurs, c'est notre confrère d'Actua BD qui me l'avait fait découvrir il y a 2 ans. C'est Baptiste Gilleron, d'ailleurs. Mmh. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que même si c'est pas Sandoval qui est au crayon cette fois-ci, on voit qu'il y a une filiation graphique quand même entre la dessinatrice et son univers à lui avec les têtes un peu en triangle avec des petits coups et pour créer des univers vraiment qui ressemblent à aucun autre. Alors là, c'est vrai qu'il y a la cerne qui est beaucoup plus présente que dans les dessins de Sandoval. On voit quand même encore la patte de la du côté aquarellé, du côté crayonné avec extrêmement nerveux. On voit qu'il prend pas n'importe qui pour le dessin, ça c'est sûr. Et puis comme tu dis, le pitch avec les gens vus tels qu'ils seront, on voit vraiment tout le côté onirique. Et d'ailleurs la couverture me rappelle aussi celle de Dumb Boy. Avec quelqu'un qui regarde dans le vent, l'horizon.
Alors la question que je avec en plus vernis sélectif. Tiens, je l'avais pas vu. Ouais, en bougeant, effectivement, ouais. on le voit. Après Tony Sandoval et le directeur de la collection Calamar, dans lequel est sorti cet album, donc peut-être aussi qu'en tant que directeur de collection, il a voulu donner une marque, etc., assez particulière, qui fait qu'on va la retrouver. Je ne sais pas, ça reste à voir. En tout cas, pour moi, c'est un garçon qui est très talentueux. Il a trouvé une dessinatrice qui va l'aider à compléter un catalogue qui, à mon sens, va vraiment. Enfin, mince, quoi, merde. On a eu Dumb Boy qui nous a. Et là, les échos invisibles. On attend le deuxième tome. Enfin, la conclusion de l'histoire, parce que oui, visiblement, c'est beau. Il n'y a pas à redire. C'est magnifique, c'est une belle histoire.
Et puis si vous le croisez dans les festivals, n'hésitez pas à lui demander le dédicace. Allez-y assez tôt parce qu'il commence à avoir une sacrée réputation. Il y a pas mal de queues et il est tout à fait sympathique avec son accent mexicain. Il faut bien parler lentement quand vous lui parlez, mais il vous parle avec un accent comme ça. Il est très un peu un côté nounours avec ses cheveux longs, qui est un look assez reconnaissable. on voit que c'est quelqu'un. Avec sa bonhomie qui est tout à fait agréable.
Les échos invisibles, tome 1 sur 2, scénario Tony Sandoval, Grazia La Padula au dessin, c'est dans la collection Calamar, aux éditions Paquet. Littéralement un autre sujet, tout à fait un autre style, même si on reste dans de la BD cartonnée, format album, pour cette sélection. Désolé, hein, les mangas, ce sera la semaine prochaine.
Tu parles de BD communiste?
Presque, à cause du titre. Zone Rouge, pas du tout. Loin de là, c'est Philippe Pinard au scénario et Olivier Daugier au dessin. Alors toi, tu crispes, mais moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai franchement vraiment beaucoup apprécié. Quand tu lis les trois premières planches, tu fais « Ah ouais, ok, on n'est pas dans ce qu'on pourrait croire. » Zone Rouge, donc le premier tome s'appelle Carrera. C'est dans la collection Calandre, aux éditions Paquet. Non, je parle de lire le scénario de bas.
Non, mais j'ai vu que les premières planches, oui, c'est pas
c'est
pas les bisounours. Oui, hein.
Voilà, c'est pas les bisounours. Et en même temps, collection Calandre, c'est généralement axé sur la voiture, etc. Au point que des fois, la voiture est l'histoire principale, le ressort principal de l'histoire. Là, c'est pas du tout ça. Et à mon sens, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai flashé de ce côté-là. Une fois justement qu'on se met dans le dessin, on se dit ok, ils ont fait ce parti pris pour le dessin justement pour ça, et justement de ce côté-là, ça marche d'enfer. Il est jeune, il est beau, il est terriblement charmeur et intrépide. Laurent Beaumont est le vendeur de choc de la plus importante concession Citroën. La France est relevée des dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait 10 ans que la France a été libérée. Elle commence à prendre goût à la consommation de masse. Parallèlement, les week-ends de Laurent sont bien occupés avec son confrère Mécano. Ils se lancent dans différents rallyes régionaux de la France. Leur tandem remporte régulièrement des étapes et se classe souvent premier, du moins dans leur catégorie, pas forcément la plus prestigieuse. Ils mènent leur course en amateur, n'étant pas assez soutenus par leur patron, qui croit pas vraiment à la publicité par les exploits sportifs. Citroën, exploits sportifs. Ouais, bon, peut-être un jour, on ne sait pas. Ils doivent donc se débrouiller avec leur 11 BL, une traction avant, modèle 1952, hein, c'est pas celle de 37, heureusement. Allez savoir comment Laurent a le chic pour arriver à trouver des pièces, moteurs, spéciales courses à des prix inférieurs au marché. D'ailleurs, en parlant de courses, il va régulièrement en faire quelques-unes dans le luxueux appartement de son patron pendant ses heures bureau. Bref. Laurent cartonne le week-end, séduit les dames et explose ses objectifs de vente. Sauf qu'en 1955, Citroën a une image un peu vieillante. Le design des véhicules de la marque Chevron n'a pas évolué depuis les années 1930. Ou si peu. Sébastien Loeb est encore loin d'être né et son véhicule classe tourisme tient totalement de la science-fiction quand même, faut le dire. Mais il bruisse un peu partout qu'un mystérieux projet du bureau d'études de la rue du Théâtre amènera un véhicule aux formes innovantes. Il faut qu'à quelques jours du salon de l'auto, le jeune homme est complètement écarté, relégué à la gamme vieillissante des tractions avant. Peut-être parce qu'il a franchi une fois de trop les limitations. La Carrera du titre vous donnera une idée du devenir professionnel de Laurent. Une toute autre marque, mais aussi un standing bien différent pour la clientèle. Philippe Pinard, journaliste spécialisé moto, maîtrise évidemment le sujet et on imagine qu'il a dû y passer un nombre d'heures assez conséquent pour ajuster finement le régime moteur de son scénario. Aucune faille. Documenté, précis et avec des intrigues, des interactions complexes, entre les protagonistes. Habitué des BD moto, entre autres avec Margerin, avec Petit Luc, c'est sa première incursion, me semble-t-il, dans le domaine auto et histoire en costume. C'est-à-dire, on est dans les années 50, on n'est pas dans une histoire relativement proche. C'est bien écrit, le plan de route laisse entrevoir une belle trajectoire et il arrive à plaire même si on n'est pas fan de voiture. Olivier Daugier a vraiment une belle maîtrise du pinceau, une passion pour la bande dessinée à ligne claire et une précision de rendu très agréable. À vrai dire, 2 heures avant cette émission, armé de la Wikipédia, n'oubliez pas d'ailleurs de les soutenir, hein, puisqu'ils font une demande de fonds auprès du public, je me suis fait plaisir à identifier exactement le modèle du véhicule de rallye. C'est pour ça que je peux vous dire avec précision, c'est le modèle de l'année 52-53, c'est pas celle de 37 ou celle de 46. C'est vrai que on voit que vraiment il a pris plaisir sur le sujet. Et en plus, ben, il utilise l'éthique bande dessinée de l'époque. C'est justement ça qu'il voulait reproduire, et de ce côté-là, il le fait plutôt bien. Par exemple, les dialogues où deux personnages se donnent la réplique sur une case blanche sans bord, leur buste chevauché, ça c'était typique de l'époque. Par contre, toujours ce même tic assez désagréable pour les modernes, des affiches scannées et placardées avec Photoshop ou les plaques minéralogiques avec leur lettrage raide. Ça par contre, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas essayé de se réapproprier les éléments de décor, ce qui du coup jette un froid sur les planches. Par ailleurs, c'est vraiment dommage parce que elles sont vraiment très bien exécutées. Du sport, je sais pas si tu as quelque chose à redire de ce côté-là ou Thomas à intervenir.
Non, mais j'ai juste feuilleté et puis bon bah OK, hein, c'est ça me fait retomber en enfance, on va dire.
Ah oui, non mais t'as vraiment l'impression de lire les Tintins ou les Pilotes, enfin les Pilotes pas encore, mais les Tintins en tout cas.
Même avant, hein. Mm. Même avant, enfin les Tintins du début des années 60, enfin vraiment.
C'est... Là on est en 55, hein.
Ouais, non mais bon, vraiment ça a l'air vraiment super. Et le truc que j'ai remarqué vite fait en feuilletant un petit peu, quoi, c'est le nombre de références de placards publicitaires de l'époque.
Oui. Alors là, c'est un festival.
Ouais. Il y en a vraiment le magasin de radio, il y a marqué Radio Pâté, Radio La, Kléber, les pneus Kléber Colombe, enfin bon, toutes les vieilles pubs, hein, que bon bah. Toutes les marques qu'on ne connaît plus maintenant, hein, ça a été racheté.
Oui, Citroën, Peugeot, je crois qu'ils vont fermer la dernière entreprise en France.
Non, mais bon.
Moi, ce que je regrette sincèrement, voilà, tu vois, c'est que ils ont retrouvé les affiches, ok, mais ils ont trouvé une banque sur Internet, et du coup, ben, ils n'ont pas pris le plaisir, justement, ils n'ont pas pris le temps de refaire l'affiche, donc c'est scanné, c'est plaqué, légèrement en perspective. Ça, je trouve, c'est un peu dommage parce que du coup, ça casse le dessin qui, à côté de cela, est vraiment bien réussi, quoi.
C'est un
peu triste.
Il faut préciser que cette Porsche, la Porsche que tu vois en couverture là,
est sortie en 55.
Voilà, elle est sortie.
C'est celle de 55.
C'est la première, hein. C'est la première, on va dire. Et en plus,
c'est la 932, si je me trompe pas.
Non, c'est la 356. Elle est sortie à très peu d'exemplaires. Enfin, très peu d'exemplaires, c'est relatif, mais bon, pour l'époque, c'est vraiment très très peu, en fait. Et moi, je me rappelle très très bien parce que dans mon petit village, il y avait une bonne femme qui en avait une. Et donc, on était tout gosse et puis on badait cette bagnole parce que bon, bah, vraiment, elle sortait du.
Elle a une gueule.
Du lot, ouais, elle a une gueule, hein, y a pas de problème.
Voilà.
Comme la Jaguar Type E, tu vois, c'est pareil, quoi. C'est le genre de bagnole que. Tu les vois une fois, bon bah tu t'en souviens toute ta vie.
C'est clair.
Il y a pas de problème.
Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'un autre côté, ce qui est vraiment agréable aussi dans l'album, c'est qu'on apprend énormément de choses, hein. On apprend des trucs sur la motorisation et tout. Si on s'y intéresse pas, c'est une bonne initiation. On apprend justement comment en fait est échangé les trucs de ce côté-là et tout. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à le lire. Toi, Thomas. T'es pas du tout tenté.
Moi, je vais faire mon polémiste, c'est que c'est une bande dessinée qui ne me parle absolument pas, tant au niveau graphisme que les bagnoles, moi je m'en fous. Par contre, je veux bien m'imposer un défi, je vais la lire. Et si le côté refaisant une BD comme avant et ça joue là-dessus, bah, je suis prêt à reparler de la BD et à faire mon mea culpa quand je reviendrai, quand je l'aurai lu.
Moi, je pense que ça marche beaucoup mieux justement sur le scénario. C'est en lisant la première planche que moi j'ai fait.
À mon avis, oui. Hein.
Ok. Voilà.
Après moi, voyant les bulles comme ça là en diagonale, moi ça me parle pas du tout. Mais voilà.
Mais après, mais c'est vrai que tu es pas Blake et Mortimer. Toi.
Non du tout. Voilà, mais je suis le. En même temps, je suis le genou de la bande. Moi, j'ai pas grandi dans un village où il y avait des bagnoles comme ça.
Non, mais c'était vraiment exceptionnel.
T'as pas une.
Et en plus, la bonne femme, elle l'avait acheté à l'époque où c'était sorti.
C'est d'un très très haut standing.
Tu vois, 10-15 ans après, elle était toujours dans le même état, nickel et tout. Et puis bon, c'était vraiment... Ça avait rien à voir avec l'autre qui avait la Jaguar Type E, mais...
Règlement de compte des années après.
Ah non, mais c'est...
Des décennies après, quoi. Oh punaise, magnifique. Allez, on continue à massacrer dans ce cas-là et on va sortir The Boys.
Ah bah tiens, tant qu'on parle de massacre... Xavier m'a dit que la couverture était à pleurer de rire, alors montre-nous ça.
Non, à pleurer de rire, à bonder de rire.
Attends, j'arrive pas à bien... Ok, d'accord.
D'accord, ok.
Oh, le lag.
Alors, la couverture est légèrement mensongère quand même, hein, je tiens à le préciser. Parce que lui, on ne le voit pas du tout dans cet épisode.
Ah ouais.
Pas du tout, mais d'accord. Vraiment pas du tout.
Donc c'est la légende de lui.
La légende, ouais. Ouais. On le voit pas. Il est à peine évoqué. Il est à peine évoqué. Mmh. Hein. Mais bon, c'est normal, hein, parce que bon, c'est quand même un des personnages principaux.
Ils ont quand même le chic pour faire des couvertures complètement cheap. On peut le dire, pas du tout belle du tout, mais qui fonctionne parce que c'est totalement dans la lignée de ce qu'il y a à l'intérieur.
Ça a toujours été leur marque de fabrique. On ne va pas justement changer de dessinateur pour la couverture ou quoi que ce soit.
Ouais, ouais.
Et on le fait en un
alors,
coup.
Alors bon, bah pour ceux qui sont plus ou moins
habitués. Par contre, ce qu'il y a de rigolo, c'est que quand on sait le nombre de saloperies qu'il y a à l'intérieur, tu vois qu'ils se sont réfrénés pour la couverture, dit oh putain.
Ouais ouais, non mais bon, il faut signaler que bon pour l'édition française, eh bien ce sont plusieurs histoires. Bon bah c'est vrai depuis le début, hein, ce sont plusieurs histoires, c'est-à-dire que le format est un petit peu plus petit, hein, c'est plus le format comics américain, et que dans chaque volume publié par Panini Comics, eh bien ce sont 4 histoires qui sont rassemblées en un seul volume, d'accord. Et à l'intérieur, vous ouvrez la première page, et bien à l'intérieur, vous avez, comme d'habitude, à chaque fois, les couvertures originales. Dont celle qui illustre.
Ouais, il y a la première là où
la première. Elle est d'actualité, on va dire, de Toulouse.
Oui, oui, oui. C'est les associations de, on va dire, de fidèles qui pourraient protester.
Mais ça, c'est en fait ça. La première, si tu veux, celle dont on parle là, bon bah vous les voyez pas parce que bah en fait la radio, désolé les gars, hein, puis de toute façon comme ça vous incite à l'acheter, à vraiment avoir avec l'histoire de ce tome.
Excuse-moi, je suis en train de revisser mon moteur.
Numéro 12 de The Boys, toujours scénarisé par Garth Ennis, et là c'est un petit nouveau qui dessine.
C'est plus Darick Robertson.
Non non, ni Carlos Esquerra. Non non, c'est Russ Brown. Ben bon, Russ Brown, on va dire.
Non, Russ Brown, c'est la F1, ça.
Non, Russ Brown.
Ah non,
pas,
ah,
pour
non,
pas l'enchaînement.
Pas ça, non, pitié.
Pas
non,
Russ Brown.
S'il vous plaît, stop. C'est 30 ans de la radio, soyez pro, merde.
Ouais, ouais. Non, 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 c'est pas Brown en anglais, c'est Brown en allemand.
Ah, Brown.
Voilà, Brown. Yeah. Ball.
Là, vous devenez rasoir, les gars. Hein.
Ok. Alors, je vais vous faire le topo que je fais d'habitude, mais là, je vais vous le faire à la professionnelle du Festival de Colomiers. Jean qui est payé, quoi, pour le faire, quoi, tu vois.
Vas-y.
Oh, putain.
Dans un monde où les super-héros sillonnent le ciel ou rôdent dans la nuit, quelqu'un doit faire en sorte qu'il ne dépasse pas les bornes. Et ça, c'est le boulot de Billy Butcher, du petit Yugi, de la crème, du français, de la fille. Les petits gars de la CIA, une équipe de gens dangereux. Ça tombe bien, puisqu'ils luttent contre la force la plus dangereuse de la Terre. Les Gugus à super pouvoir. Certains super-héros doivent être surveillés. D'autres doivent être contrôlés. Et certains, parfois, doivent dégager.
Croire. Le naturel est revenu au galop. Hein,
croire. 12e tome de The Boys, donc. Alors, on se recentre sur l'élément principal, à savoir la bande à Billy Butcher contre les Gugus à super pouvoir, et à ce qui était le début, à savoir, eh bien, le team de super-héros les plus puissants, les sept, voilà, et les sept. Et en fait, il y a pas beaucoup d'action dans ce numéro-là. Non, il y a beaucoup de parlotte. Ça parle, ça jacte à fond les manettes. Et en deux segments, c'est-à-dire, il y a le segment où il va y avoir une révélation, mais alors, bon, on s'y attendait un petit peu quand même. Quant à la relation qu'entretient petit Yugi avec Stella. L'un ne sachant pas qui est l'autre, enfin quelle est la véritable identité de l'autre, mais bon,
vice versa,
hein. Et en plus ils s'aiment, mais alors vraiment là ça commence à être un amour profond et tout.
Attention à ton vocabulaire.
Shakespearean.
Non, un amour très profond dans The Boys,
c'est.
Un amour profond, genre voilà quoi, non, plein de sentiments, ça dégouline presque.
Ah non,
c'est... Oh non, est-ce que c'est une allusion au
Cunic?
Est-ce que c'est une allusion au Cunic qui avait mal tourné dans les premiers tomes?
Non,
je tiens à signaler pour ceux qui aiment ce genre de description clinique. Que en ce moment il y a Extrême Cinéma avec des films d'opérations des années 1900 accompagnés au piano et tout, mais c'est pas le propos.
Non, mais t'as plein de dialogues entre deux personnes comme ça, quoi, qui s'expliquent des trucs et tout, et puis bon, dis, mais merde, c'est pratiquement un roman photo, genre nous deux, truc comme ça. Ah, non, non, mais c'est vrai, quoi. C'est assez incroyable. Alors ça, c'est le versant petit Yugi avec Stella. Et, t'as l'autre versant qui est en fait un petit peu la suite de ce qu'on avait pu entrevoir dans l'épisode Érogasme. Tu sais, un moment où, bon, bah, ok, chaque année, tous les super-héros qui sont sponsorisés par Vote American ont le droit à une semaine de vacances. Et donc, on leur paye une semaine tout frais payé sur une île où ils ont accès à absolument tout. Les nanas, la cam, tout ce que tu veux, en abondance, vas-y, c'est gratuit. Enfin bon, c'est... bon, ok, hein. Et parallèlement, je sais pas si tu te rappelles, mais ça prend une toute petite partie dans Érogasme. Eh bien, il y a le protecteur, c'est-à-dire le chef des Super 7, hein, des le patron, en fait, qui essaye de brancher justement à l'occasion de cette réunion des différents groupes de super-héros, qui essaye de brancher justement les autres têtes des autres super-groupes pour leur dire ouais putain bon Vote American, ils commencent à nous faire chier, bon on pourrait peut-être passer au-dessus. Parce que c'est quand même nous qui avons le pouvoir, en fait. C'est nous qui sommes plus puissants qu'eux. Oui, ils se servent de notre puissance.
C'était d'ailleurs le cliffhanger de l'épisode précédent, voilà. Où on voyait comment il s'appelle déjà le leader des sept. Il commence à dire, ah, ça va être mon tour maintenant, il faudrait que je me sorte les doigts.
Exactement, exactement, exactement. Et là, eh bien, ça continue. Ça continue, c'est-à-dire que, bon, ben, à l'occasion d'une messe, alors c'est pour ça que la première de couve intérieure et qui est la première couverture de cette série de 4 épisodes, tu vois un type sur une croix, hein, celui que j'appelle généralement le crapaud de Nazareth, et en fait c'est parce que c'est à l'occasion d'une réunion évangélique telle qu'on en connaît beaucoup aux États-Unis, hein, tu sais que bon bah là-bas les églises, l'église n'est pas vraiment unifiée, chacun peut créer sa propre église. À l'occasion d'une réunion comme ça dans Central Park carrément, où ils foutent des trucs et tout, oui il faut croire et tout. Alors là Garth Ennis quoi, il est carrément excellent parce que bon bah t'as carrément tous les trucs, hein. J'y crois, il y a un pouvoir en ce monde qui fait que le plus grand des super-héros paraît tout petit, je crois en Dieu, je crois en l'amour du Christ notre sauveur, enfin bon ça y va à fond les manettes, hein, c'est-à-dire que bon bah là ils en prennent pour leur grade et c'est pas piqué des hannetons. Et donc à l'occasion de cette réunion justement, eh bien le protecteur, le chef des sept, eh bien va prendre de nouveaux contacts avec le type qui est le messie, on va dire le messie sur terre, hein, qui réunit tout ce monde et tout quoi pour les sanctifier et tout. Alors bien sûr il y a la critique de tout l'aspect mercantile qu'il y a de ce côté là oui, acheter nos hosties sacrées, enfin tout le bordel histoire de faire du pognon à fond les manettes, ça il y a pas de problème. Et ça lui permet justement eh bien d'essayer à nouveau de réunir ces gens là pour dire ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à Vote American. Alors il y a un cliffhanger, hein, c'est ils arrivent pas à une conclusion dans cet épisode, mais ça laisse augurer que il va y avoir un petit peu de bordel, parce que bon ben justement quoi, leur but c'est le même but que Vote American, à savoir que Vic le vice-président passe président. Mais parce que comme c'est un pantin, ok, ils vont pouvoir eux-mêmes aussi le manipuler, c'est-à-dire utiliser les mêmes armes. Hein, pour essayer de contrôler le monde, parce que bon ben ils savent qu'ils sont pas exempts de tout reproche. Alors justement il y a encore plusieurs allusions au 11 septembre, parce que bon ben ils sont directement impliqués dans le 11 septembre vu qu'ils ont merdé dans les grandes largeurs, puisqu'il y a quand même eu l'attentat alors qu'ils étaient là quoi, tu vois. Donc c'est assez bien foutu, ça c'est la partie on va dire super héroïque de ce 12e tome Croire. Et l'autre grosse partie, en fait, eh bien, c'est surtout un huis clos entre trois personnages, c'est-à-dire Billy Butcher, petit Yugi et Stella. Avec révélation d'un côté et de l'autre, oui, je sais que tu sais, mais tu ne savais pas qu'il savait, et tout ça. Et là, c'est pas mal, c'est assez prenant quand même, parce qu'il n'y a pas du tout d'action, il n'y a que dalle, il n'y a pas de castagne, il n'y a pas de sang dans cet épisode.
Oh putain.
Il n'y a pratiquement pas une goutte de sang, quoi.
Pas de pénétration, pas de...
Sinon, l'allusion à ce qui s'était produit
l'épisode
entre Stella et petit Yugi.
Qui avait dégouliné, d'accord.
Voilà, c'est tout. À part ça, c'est bon. Et avec une fin qui, bon, de ce versant d'histoire qui laisse aussi augurer qu'il y aura... peut-être une suite, on va dire, un petit peu dégueulasse, un petit peu crade pour l'un des deux personnages. à mon avis, je pense, quoi, parce que bon, ben, ça va casser très fort, quoi, de toute façon. Enfin, c'est pas mal, ça.
Sachant que petit Yogi, il dérouillait ses verres dans l'épisode précédent, quand même.
Ah, ben, il porte encore les stigmates, quoi.
D'accord.
Alors, bon, ben, au début, il fait croire qu'il est tombé dans l'escalier. Enfin, à Stella, il lui fait croire, oui, je suis tombé dans l'escalier. Oui, mais comment un représentant de l'assurance peut tomber dans un escalier? Ah, bah, il suffit de louper une marche, mon gars. Enfin, bon, il y a toujours toute cette part d'humour, hein, qui est omniprésente, de toute façon. Et il y a en plus, bon, ben, toute la partie surveillance. Alors, bon, on apprend également que, eh bien, un des membres des sept, eh bien, donne des informations à la bande de Butcher, et à Butcher en particulier.
Ah, il y a un traître.
Ah, qui ça? Ben, en fait, c'est pas compliqué. Quand on découvre qui c'est, on se dit, putain, mais c'est pas étonnant, quoi. Mais c'est vrai, mais depuis le début, en plus, quoi, tu le sens, quoi. C'est évident, quoi. Mais bon, c'est vrai que là, c'est très très bien tourné, et donc bah ça laisse augurer bon une bonne suite nettement plus pétante à mon avis, parce que là bon bah chacun fourbit ses armes de son côté,
ouais.
À mon avis, hein, c'est à dire que là il y a une petite période de latence où bon bah il ne se passe rien, enfin entre guillemets, mais par contre je pense que dans les prochains épisodes ça risque de charcler vraiment très très fort. Donc c'est The Boys. Alors au niveau du graphisme, bah franchement, hein, on avait déjà dit ça de Carlos Esquerra quand il avait pris la suite de Darick Robertson. Bon, c'est quand même Darick Robertson qui fait la couverture, mais à l'intérieur c'est donc Russ Brown. Franchement, on voit pas beaucoup la différence, peut-être dans les traits de Billy Butcher, dans les traits des visages qui sont un petit peu modifiés, peut-être un petit peu plus moins carré, hein, mais à part ça, bon bah il y a pas de problème, hein, c'est l'ensemble graphique est vraiment respecté à fond les mallettes, donc ça continue à fonctionner, quoi, comme d'habitude. Donc c'est The Boys, le tome numéro 12, Croire, par Garth Ennis et Russ Brown, chez Panini Comics.
Et si on allait voir le tisseur?
Bah oui. Parce que dans le dernier numéro, le numéro 142, donc, c'était la fin d'un cycle, carrément.
Mmh.
Avec le baiser et la déclaration de Peter Parker à Carly Cooper, adoubé par Mary Jane Watson. En plus, hein, on se rappelle de ce fameux double épisode où c'était un duo, un dialogue entre Peter Parker et Mary Jane Watson qui se remémorait tout ce qui s'était passé durant le Brand New Day, avant le Brand New Day, leur mariage, le mariage cassé par le pacte passé avec Mephisto, Mary Jane Watson qui se barre du côté de la côte ouest, qui revient sur New York, ses sentiments cachés pour Peter Parker, enfin bon, la belle bluette, hein, c'est vraiment sympa, quoi. Bon, pendant ce temps-là, bien sûr, Spider-Man continuait à dégommer du super vilain. Alors on avait appelé à la rescousse tous les super vilains historiques, exception faite du clone d'ailleurs, c'est assez marrant, mais enfin bon, tous les autres, hein, ils y étaient passés, à tel point que dans le dernier épisode, eh bien c'était carrément le Docteur Octopus qui avait rassemblé tous les super vilains comme Electro, comme Sandman, pour essayer de terroriser la ville de New York, essayer de faire chier Jonah Jameson, qui est maire de New York maintenant, hein, qui a été élu, on se le rappelle. Bref, une espèce de gigantesque apocalypse, un bouquet final, on va dire, hein, dans ce grand arc, hein, qui a quand même pris des années et des années. Pour arriver donc à cette conclusion. Et là, bien, c'est le début d'une nouvelle ère pour Spider-Man, orchestrée là par Dan Slott qui reprend la main. Il avait déjà travaillé sur Spider-Man il y a quelques années de ça. Là, il reprend la main en compagnie de Humberto Ramos au dessin. Et c'est Dan Slott donc qui va être, on va dire, entre guillemets, rédac-chef de tout ce qui se passe en ce qui concerne Peter Parker et Spider-Man. Et ce nouvel arc, eh bien, s'appelle Big Time. Yes. Alors, au départ de ce nouvel arc, eh bien, Peter Parker, il est vraiment à la ramasse, il est à la rue. Il s'est fait virer du Daily Bugle. Ensuite, il a travaillé pour le Frontline. Ensuite, il a été photographe parce que, bon, c'est le demi-frère de Jonah Jameson. On se souvient, puisque, bon, ma tante May s'est mariée avec le papa de Jonah Jameson. Donc, ils sont demi-frères. Donc, le maire obligé de lui filer un boulot, d'accord. Il lui file un boulot de photographe officiel. Mais dans une histoire, Peter Parker va maquiller des photos pour innocenter Jonah Jameson qui est accusé d'une malversation alors qu'il est maire. Et donc il va maquiller une photo pour l'innocenter. Et Jonah Jameson va virer Peter Parker parce qu'il a manqué de professionnalisme, parce qu'il a trafiqué une photo. Et ouais, c'est comme ça.
Tiens, okay. le naturel est revenu.
Alors donc, il a plus de boulot. Déjà, il faisait colocation avec la sœur à Gonzalez, la sœur à Vin Gonzalez, parce qu'il pouvait pas se payer un appartement. La nana, au bout d'un moment, elle commence à craquer à fond les manettes. Et il rentre chez lui au début de cet épisode et il trouve ses valises devant la porte. Genre, et il a même plus de chez lui. Alors, au début de l'histoire, bah, il commence à téléphoner à droite à gauche, à ses potes, à ses machins. Ouais, tu peux pas m'héberger et tout. Et puis, bien sûr, chacun les conduit royalement, sans problème. Mais par contre, eh bien, il faut se souvenir qu'à l'origine, Peter Parker, quand il était encore un jeune lycéen, eh bien, n'est pas photographe du tout, quoi. C'est-à-dire que le boulot de photographe qu'il exerce comme couverture, on va dire, pour gagner sa vie, n'est pas sa passion première quand il est quand on connaît Spider-Man depuis les origines. Il est plutôt versé dans le niveau scientifique et tout. Et si on réfléchit un petit peu, on se dit également que Spider-Man, bah, tous les artifices qu'il réussit à se fabriquer lui-même, en plus en douce, hein, parce qu'il a pas de labo, il a que dalle et tout. C'est pas comme Norman Osborn qui a un super labo secret et tout, où il entrepose tous ses trucs pour devenir le bouffon vert avec toute la technologie dont il dispose, parce que bon, il est riche, il a des entreprises. La Peter Parker, il a que dalle. Pourtant, les lance-toiles et tout ça, les traceurs magnétiques, faut bien les fabriquer. Et il faut quand même savoir comment les fabriquer. Donc, faut avoir certaines connaissances technologiques. Donc, Peter Parker, scientifiquement parlant, c'est quand même quelqu'un de vachement développé. Et dans cet épisode, il va réussir déjà à se trouver à loger. Comment ? Tout simplement parce que on va lui trouver un boulot. On va lui trouver un boulot où ? Pas n'importe où. Dans un des laboratoires un petit peu space, on va dire un petit peu new age, dans lequel sont fabriquées toutes les nouvelles technologies du futur, et dans lesquelles, il va être l'un des 7 chercheurs qui travaille dans vraiment la technologie du futur, mais vraiment des trucs improbables, hein, carrément improbables.
Pourquoi il l'a pas fait plus tôt?
on se demande. Mais enfin bon, c'est comme ça parce que il était occupé avec, c'est-à-dire que sa vie de Spider-Man prenait le pas sur sa vie professionnelle de photographe, même quand il était au Daily Bugle, quoi. Hein, on se rappelle que de toute façon, il a toujours été traité plus ou moins comme un grouillot. Que ce soit par Ben Urich, que ce soit par Jonah Jameson. Et là, il va trouver carrément ce boulot et il va carrément être embauché comme étant l'un des 7 super chercheurs dans une entreprise où les mecs sont vachement à l'aise, tranquilles, on est en chemise hawaïenne, chacun a son petit local, son labo de recherche personnel auquel il n'y a que lui qui a accès à toutes les données. Enfin bon, c'est vraiment le truc super et tout. Mais tout se passerait bien et ça paraîtrait assez fade comme histoire aussi, parce que la vie de Peter Parker, c'est peut-être intéressant un petit moment, mais on s'intéresse un petit peu plus à ce que fait Spider-Man. Et là, Spider-Man, il va quand même avoir affaire à des super-vilains. Et quels super-vilains? Eh bien, ils vont être deux. Le premier, c'est lui. On le reconnaît aisément, il n'y a pas de problème.
Oh, le bouffon vert.
Le bouffon vert, mais ce n'est pas un Osborn.
En version gladiateur, on dirait.
Ouais. Ce n'est pas un Osborn, non. C'est un ancien personnage qui, à un moment donné, a également revêtu le costume du bouffon vert et qui s'est dit, qui a accès à un moment donné, à la technologie de Norman Osborn. Pourquoi? Parce que Norman Osborn, lui, il est toujours au trou, à Rikers, en isolation. Harry Osborne, le fils, il s'est barré parce que bon, il en a un petit peu marre. Il est allé élever son son gamin qu'ils ont réussi à sauver. On se rappelle le dernier épisode hein, de Brand New Day avec Peter Parker avec le bébé dans le bras. C'était toute l'histoire hein, en fait du dernier épisode. Et donc, eh bien, ce monsieur Kingsley, lui, il a par hasard accès au labo et donc, eh ben, il va dire, bah, c'est moi qui vais devenir le prochain super bouffon. Ouais, sauf que. Eh bien, il y en a un autre qui est pas content du tout, quoi, et qui se dit non, pas question, mon gars. L'autre, eh bien, c'est lui. C'est également un autre bouffon qui va dégommer le premier.
La guerre des bouffons et la nouvelle guerre des bouffons.
Ouais, ouais, qui va dégommer le premier et qui s'attaque donc à Spider-Man et à Peter Parker, donc, mais directement dans le labo où il travaille et qui va carrément tout ravager, quoi. Et le cliffhanger est assez chaud hein, parce que bon bah Spider-Man qui crache le sang et l'autre qui a une super épée
et le chevalier
qui va lui trancher la tête bref ça démarre très très fort pour ce big time.
Here we are.
Non, orchestré par Dan Slott et Umberto Ramos donc dans le numéro 142 de Spider-Man le numéro de novembre chez Panini Comics encore pour le moment et c'est suivi par quelques petites mini histoires, il y a carrément des mini histoires qui font 4 pages. Ouais, si c'est vrai quoi, avec bon bah souvent le versant un petit peu comique quoi, c'est-à-dire on fait vraiment de la comédie, il y a pas de trucs dramatiques, c'est pratiquement pour les gosses quoi, on va dire. Et un segment mais qui est très court, mais vraiment très très court, mais là qui est hyper sombre, avec juste deux personnages, Norman Osborn qui fait sa réapparition, on ne sait pas d'où,
Coucou.
Et Vin Gonzalez donc qui est sorti de prison, qui était le colocataire de Peter Parker, on se rappelle, mais qui a été confondu et qui est parti au trou lors de l'affaire des tueurs aux traceurs. Et qui est sorti de tôle, bon, il est encore libéré sur parole et tout, quoi. Et là, c'est une histoire très très sombre, je vous en dirai pas plus, parce que bon, ça finit hyper mal, c'est hyper glauque, quoi. Et y a vraiment une différence, un décalage de ton par rapport même à l'histoire centrale de Spider-Man. Donc là, vraiment, ça crache pas mal, quoi. C'est ça qui est assez intéressant, donc, ces différentes visions qu'on peut avoir. Donc, je rappelle, c'est le Spider-Man 142 de Panini Comics sorti ce mois. On passe tout de suite à l'homme qui s'appelle...
The Batman,
avec ce mois-ci, il y a deux sorties, carrément. Hein. Il y a la sortie... Enfin, ce mois-ci, il y a la sortie fin octobre, début novembre du Batman Universe, c'est-à-dire le classique, hein, c'est le numéro 9, mais dans lequel Batman il est toujours pas là, hein, c'est toujours la série RIP. Donc,
Ah oui, c'est quand il voyage dans le passé.
Voilà, c'est
ah,
ça.
Ah, cool.
Voilà.
Ça, c'est la fin, ça?
Alors, ça, c'est la fin, en fait.
Ah. Hein.
Parce qu'en fait, il y a...
Quand il va revenir au temps présent, boum.
Alors, non, c'est parce que dans le Batman, il faut d'abord que je vous parle du Batman Universe Extra, c'est le deuxième, c'est le numéro 2, et c'est donc le retour de Bruce Wayne, numéro 2. Et on se rappelle que à la fin du premier, l'une des dernières pages, la dernière page, on voit la tronche à qui? On voit la tronche à Jonah Hex. Parce que
ah
Batman,
oui, ah c'est dans celui-là. Ouais,
ouais, parce que Batman a été envoyé dans le passé et atterri dans un monde préhistorique. Et au fur et à mesure de bons spatio-temporels, eh bien, il se rapproche de la période présente. Et là, bon bah, il en est à la période du western. Et ça commence hyper glauque, hyper trash. Avec bon bien sûr hein, le truc de western et tout.
Oui, en plus il est question de chasse aux sorcières dans l'épisode précédent.
Dans l'épisode précédent, ouais, 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 ça va continuer hein, c'est d'ailleurs un fil rouge, on s'en rend compte un petit peu plus tard quoi. Et on se rend compte que même bon Bruce Wayne, enfin, il ne sait pas qui il est en plus un hein, Bruce Wayne quand il était plongé dans le passé, eh bien il a perdu sa mémoire. Il ne sait pas qu'il est Batman, il ne sait pas qu'il est Bruce Wayne, il ne sait rien, il découvre les choses
on voit
au
qu'il
fur et
un,
à mesure.
Il voit qu'il y a un fil rouge de chauve-souris.
Voilà, le fil rouge c'est la chauve-souris, c'est tout. Hein, le peuple des chauves-souris quand il est chez les hommes préhistoriques, la chasse aux sorcières avec bien sûr eh bien les chauves-souris qui sont présentes à travers cette espèce de coffret que personne ne peut ouvrir, ce coffret dont il est encore question d'ailleurs. Je ne vous révélerai rien de plus parce que c'est assez étonnant
tu
d'ailleurs.
Tu fais bien.
Ouais, ouais,
d'ailleurs. Et en plus, il est 13h.
Ah bah, tu vois quoi.
Une partie BD d'une heure.
Ouais. Et ce qui se passe également, c'est que bon, c'est bon dans le temps, il les fait, mais pas forcément en restant vivant. Hein, par exemple, à la fin du segment western, on va dire, il se fait tuer par Jonah Hex. Mais bon, bah, ça lui permet justement de faire un bond dans le temps et d'arriver pratiquement dans le présent. Et on apprend que par rapport à sa famille, c'est-à-dire par rapport à ses ancêtres, eh bien, il y a plein de faces cachées comme ça et qui le desservent au départ à travers l'histoire qui est développée par Grant Morrison. Alors c'est assez marrant parce que bon, dans ce Batman Univers Extra, eh bien dans ce retour de Bruce Wayne, parallèlement bien sûr, il y a encore la Ligue de Justice qui cherche toujours qui a réussi à plus ou moins localiser Bruce Wayne, qui sait qu'il est vivant. Hein, au contraire de tous les autres qui sont à Gotham City, qui croient qu'il est toujours mort, qui se disent ouais il y a peut-être quelque chose, mais enfin on sait pas trop. Et là à la fin, il arrive quand même bien sûr à s'en sortir, ça c'est clair. Mais
non, mais c'est bien parce que du sport j'adore. Il nous dit bon, je vous révélerai rien, mais il nous montre l'image finale. Voilà, quoi.
Oui, ouais, non, mais bon, c'est le retour de Bruce Wayne, donc ouais, forcément quoi.
Regardez l'image finale, mais forcément, je ne vous dis rien.
Bon, on a crédit.
Il y a pas de problème. Et par contre, il vaut mieux lire les deux pour avoir une compréhension vraiment bien finalisée de ce qui se passe. Parce que si t'en manques l'un des deux, tu vas avoir quelques petits trous qui sont pas vraiment gênants, mais qui sont quand même mieux. Là, c'est là que tu comprends que Grant Morrison vraiment a un esprit assez torturé et va très très loin dans ses finalités quoi quand il a envie. Dans le Batman Univers spécial là, le dessinateur c'est Tony Daniel. Tony Daniel qui avait commencé la saga RIP en faisant dessin et scénario. Là, ok, au bout d'un moment, Grant Morrison a repris les rênes et ça fonctionne très bien. Et là, le dessin de Tony Daniel, rien à dire, hein, de toute façon, quoi, c'est carrément une tuerie. Et en plus, il y a parallèlement à ça, la lutte des Batman, parce qu'ils sont plusieurs, puisque comme Batman est mort, eh bien, il y a quelqu'un qui a repris le flambeau, Damian Wayne étant Robin, et c'est Dick Grayson qui joue le rôle de Batman. Et avec une fin assez spéciale, parce que ils vont se battre avec les plus gros super-vilains qu'ils connaissent, hein, c'est-à-dire le Joker avec le Dr. Hurt. On apprend quel est le fameux Dr. Hurt, en fait. Et là, c'est une grosse révélation quand même, hein. C'est vraiment énorme, quoi, quand même. Et à la fin, eh bien, ça permet, en fait, de lancer toute le nouvel arc qui commence à être édité aux États-Unis et qui s'appelle Batman Inc., qui est scénarisé également par Grant Morrison et qui est
Inc.
une nouvelle
comme l'encre.
Non, Inc. Incorporated, c'est-à-dire INC, quoi. Okay. Et en fait, avec une révélation au grand public qui est faite de la part de Bruce Wayne lui-même. Donc,
j'adore
c'est
le message caché quand même de du sport, manière de dire il n'y a rien de prêt pour la télé et le sport n'en parlons pas.
Ah bah si, il y a de la télé. Attends, ouais.
Attends, ouais, vu l'heure, on a deux gros dossiers encore.
Bah c'est pas grave, t'en fais pas.
Bon, je propose une petite pause musicale avec un petit peu de culture, si ça vous gêne pas.
Voilà, et on continuera de parler de bande dessinée après la pause.
Hop. L'ère des bijoux de Gounod. Avec l'Orchestre National de Belgique, accompagnant bien évidemment la Castafiore della Scala de Milan.
Réponds-moi, réponds vite.
Non, je lance le générique, s'il te plaît.
Bon, tant pis.
Le cinéma vous est présenté en acteur 3D par Ultimatum.
Eh oui, aujourd'hui il est encore question de bande dessinée avec un film que j'avais vu il y a un mois et que j'avais oublié de vous parler quand nous avions fait l'émission avec Salman du Sport et moi. Et comme je n'étais pas là la semaine dernière, eh bien ça a pris du retard. Mais nous parlons enfin dans le supplément week-end de Tintin.
Cool, je vais le voir demain.
Les aventures de Tintin, le secret de la licorne de Steven Spielberg. Ça c'est quoi cette merde là? Tu peux pas
ça, ça c'est extrait justement de... ils avaient fait une comédie musicale autour du Temple du Soleil il y a 6 ans. Ça c'est extrait de la bande son.
Chorégraphie de Kamel Wally.
Tu peux me mettre autre chose que des chansons là, parce que je m'entends plus penser là.
Bon d'accord. Est-ce que ça te va?
Ah, c'est mieux.
C'est dans l'esprit, je crois.
Alors, donc, réalisé par Steven Spielberg, avec les performances enregistrées de Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig, Simon Pegg, Nick Frost, Gad Elmaleh, Hergé et Steven Spielberg. Alors, Hergé, évidemment, ils n'ont pas enregistré ses performances, mais il est dedans. Alors,
caméo comme dans tous les albums.
Oui, alors...
comme Stan Lee.
Ouais. Alors le film commence sur la place du marché, puisque ça reprend le fil rouge du secret de la licorne, avec Tintin qui se fait tirer le portrait par Hergé sur la place du marché. Sauf que Tintin, il n'apparaît que quelques minutes après, enfin on voit le bas du corps de Tintin avec l'impère, on voit Milou, et on voit le peintre qui est en train de croquer Tintin, qui lui dit « Ah, est-ce que ça vous va comme ça ?» Et puis là on voit, en gros plan, le visage de Tintin tel qu'il est dessiné dans la bande dessinée. Et Tintin, toujours masqué, lui dit « Ah, ben c'est très bien, c'est très ressemblant, j'ai l'habitude d'être croqué comme ça, ou un truc comme ça. » Et après, et là, on voit révélation du visage de Tintin, tel qu'il est avec le nouveau rendu en performance capture.
Pas mal.
Et
très bonne idée.
Et donc le peintre, donc c'est Hergé. Ensuite, Tintin, toujours sur la place du marché, va voir, évidemment, le modèle réduit de la licorne. Et le vendeur de la licorne, ce n'est autre que Steven Spielberg. Déjà... Et c'est l'occasion de voir avec cette intro sidérante. Évidemment, avant il y avait le générique qui était dans l'esprit du générique très classe, très animation 2D de Attrape-moi si tu peux. Et ils ont fait un truc qui rend hommage à la série d'Ellipse, à la série animée qui est diffusée sur Nickelodeon aux États-Unis. Et c'est un hommage à la série animée. Donc on voit Tintin avec le focus lumineux sur lui, avec Milou qui court à ses côtés. On voit des allusions au cigare du pharaon, à l'étoile mystérieuse, enfin à toutes les aventures de Tintin.
Ah ouais.
Et c'est un peu comme le générique de Spider-Man, c'est-à-dire qu'on raconte ce qui est arrivé à Tintin dans ses aventures avant le secret de la licorne, avant qu'il rencontre donc Haddock dans cette aventure, puisqu'à un moment donné, on est dans l'appartement de Tintin et on voit des encadrements d'articles de Tintin où il dit tiens, ben je suis allé en Amérique et on voit il y a une photo de Milou avec le sceptre d'autocar. Donc on entre de plein pied, c'est pas la première aventure de Tintin. On dit non, Tintin il est déjà connu, il a déjà eu des aventures dont on vous racontera pas dans le film, mais voilà, donc il y a quand même un background, ça c'est pas mal. Et donc cette place du marché, elle est juste hallucinante, puisque la performance capture justement, ça autorise une profondeur de champ qui est ébouriffante, et tu te dis waouh, la place du marché, tu as à voir dans tous les coins de l'écran, c'est tout est net. Donc du coup t'as des habitants derrière les vitres dans des maisons.
Ah du coup ils ont peuplé quoi.
Ah là ils ont peuplé, oui. Et puis ils sont ultra fidèles à l'esprit humoristique des Dupont. Ils sont gaffeurs, mais encore plus. C'est dur de le faire, mais ils le sont plus que dans la série animée. C'est-à-dire dans la série animée par exemple, ils arrivent à coincer le pickpocket. Ils arrivent et oh mais qu'est-ce que c'est tous ces portefeuilles que vous avez chez vous mais c'est vous. Et en fait dans le film non, ils ont les alors ça, c'est encore plus, le gag fonctionne encore mieux d'ailleurs, puisque ils sont en train de se chamailler les Dupont et puis ils voient même pas que il y a les portefeuilles et tout, et puis l'autre le pickpocket est ulcéré, il dit non mais c'est bon arrêtez-moi là c'est bon.
Pas mal.
C'est très très drôle de ce côté-là. La première partie du film.
La sûreté belge n'en ressort pas grandi.
Voilà.
Je dirais même plus,
tout à fait sur le point. Donc la première partie du film est, pour, selon moi, est très très, très bonne. C'est la Tintin qui est dans. Ben, ça reprend exactement presque pas au plan près, mais vraiment très très fidèle à la bande dessinée, à la série animée. C'est Tintin qui fait connaissance de sa Karine, de l'homme de main, des frères de.
Il
y a pas les frères Loiseau, mais il y a l'espèce de flic un peu rondouillard qui vient lui rendre visite en lui disant attention, vous mettez les pieds dans une affaire bizarre avec le secret de la licorne, et il se fait tirer dessus, et c'est les frères Loiseau qui lui avaient tiré dessus, sauf que cette fois-ci les frères Loiseau sont remplacés par Sakarine qui est le méchant. Ils ont fait un raccourci, mais ça crée des imbrications par rapport à Rackham le Rouge, un héritage, vous verrez, qui est pas du tout dans la lignée des albums, mais qui passe bien quand même. Et cette partie-là, elle est pleine de charme, c'est-à-dire qu'il y a les rues pavées, les voitures qui risquent d'écraser Tintin, les balles font mal. On a peur pour Tintin qu'il se prenne des balles et tout. Il est emprisonné dans le Karaboudjan. Donc il y a le roulis du bateau, un rendu qui est tout à fait sidérant, avec sa rencontre avec Haddock, où on va vraiment, c'est un plantage d'univers qui est très singulier, puisque c'est vraiment pas glauque, mais vraiment le thriller. On y est à fond à 150% avec la fuite par rapport aux hommes de Mandalan qui essaient de mettre la main sur Tintin et sur Haddock, la pluie incessante qui est dehors. Vraiment, on crée une ambiance qui est vraiment très prenante et se dit vraiment le bon polar, le bon film de suspense. Il s'enfuit, bon là je vous raconte rien puisque, enfin je vous dévoile rien puisque vous savez tous l'histoire, il s'enfuit à bord du bateau et tout. Et là... ça commence à partir dans n'importe quoi. Là, c'est il convoque plein d'albums qui dans un espèce de fourre-tout, mais pourquoi pas. Tu passais la Castafiore tout à l'heure. Vous verrez qu'il y a une apparition de la Castafiore qui est juste n'importe quoi. Mais c'est franchement, ça a rien à voir avec le reste. Et j'en arrive à là où le bât blesse, c'est que à la fin, je vous disais au départ, on craignait pour Tintin malgré le fait qu'il soit entièrement en numérique. C'était des aventures qui étaient tout à fait normales, classiques, même si Tintin il se fait tirer dessus mais il est jamais blessé. Bon, pourquoi pas. À la fin, mais c'est n'importe quoi. Ils essaient de réunir les trois parchemins. Sakarine a un faucon avec lui et c'est la poursuite du faucon dans une ville marocaine. Mais laissez tomber, vous décrochez, mais direct. C'est du jeu vidéo live. C'est-à-dire que déjà la technique fait que on n'a plus vraiment une trépidation d'un vrai corps de comédien, ce que pouvaient donner des réalisateurs complètement frappadingues qui te font passer des vessies pour des lanternes, mais tu dis waouh quand même. C'est-à-dire les films de John Woo, les films de Soyark, où tu vois que c'est complètement n'importe quoi avec la caméra qui fait des tours, des descentes en rappel sur une façade de HLM, mais tu vois que c'est n'importe quoi, mais quand même le corps du comédien fait les exploits. Donc tu te dis c'est du cinéma, mais c'est possible. Là je vous en dis pas plus, mais c'est tu décroches.
Bah, si on a vu le PK sur toutes les chaînes de télé où tu as Tintin qui avec une moto qui se démonte et qui finit en tyrolienne.
Qui finit en tyrolienne et suspendu aux pattes d'un faucon. Allez, c'est la fête du slip. C'est je suis Tintin, j'ai peur de personne, je fais pas blesser. Oh rien à foutre. Voilà, il saute de 4 étages pour s'accrocher au faucon, c'est n'importe quoi. Donc voilà, moi je me serais
dit... J'ai cru comprendre d'ailleurs aussi que l'esprit d'Hergé, toute propette et tout ça, est un petit peu malmené.
Je dirais pas ça.
Avec une histoire de vapeur.
Ouais, disons que le côté américain de la grosse production prend le pas sur un côté un peu rétro qui aurait été très, très sympa. Voir Haddock... boire de l'alcool et puis roter dans le moteur pour faire redémarrer un avion, bof. Par contre, le principal attrait du film, bon, Tintin est toujours, enfin, même si ils ont donné du côté nerveux au personnage, l'atout principal c'est Haddock. Alors déjà, Andy Serkis, il faudra, je sais pas combien d'années il va falloir attendre pour que ce type-là soit récompensé aux Oscars, Parce que je pense que dans 50 ans, on dira tous Andy Serkis, vous l'avez pas connu, mais ce sera l'équivalent de Buster Keaton, c'est pas possible. Ce type, il est juste, enfin, en Gollum, quand tu vois le making of, c'est quasiment plus intéressant que les
oui,
scènes avec
largement.
Gollum. C'est le mec, mais il est habité quand il. Alors, faut savoir qu'il a fait Gollum, il a fait le singe César dans la planète des singes, il a fait King Kong. Là, il fait Haddock, il est juste hallucinant, il est étonnant. Haddock, il est plus Haddock que Haddock. Alcolo, il s'emporte et tout. Bon, lui, s'il apparaît pas dans le film il est juste lavasse au possible. Et puis, il y a quand même aussi quelques seconds degrés qui fonctionnent vraiment bien. À un moment donné, il y a Tintin qui va sous l'eau pour surprendre deux malfaiteurs. Et en fait, il y a juste la houppette de Tintin qui est à la surface de l'eau. Et t'as... c'est très, très drôle. On a des références comme ça. Alors évidemment, Indiana Jones et la dernière croisade, c'était de toute façon un hommage à Tintin. Et là, il reprend, il fait l'aller-retour puisqu'on voit une scène avec Tintin et Haddock en sidecar. Avec Haddock qui essaie de s'initier aux armes à feu, et il n'y arrive pas. C'est comme tout à fait comme le Dr. Jones senior dans la dernière croisade avec le
la même scène avec le lance-roquette.
Le lance-roquette, pareil. L'attaque de l'avion sur la plage déserte où il y a Indy et son père qui sont sans armes et le père en fait qui prend son parapluie pour mettre des oiseaux dans l'avion. Là, c'est pareil. C'était issu d'une scène de Tintin à la base, puisque c'était le raid de l'avion dans la mer alors que Tintin et Haddock sont échoués, et qui était de toute façon certainement un hommage aussi à Hitchcock avec l'amour aux trousses. Donc il y a des allers-retours comme ça entre grands cinéastes.
Depuis que Spielberg justement avait découvert Tintin, il s'était jamais caché qu'il s'en était énormément inspiré dans plein de films.
Ah oui, non, ça c'est clair. Voilà, donc à part cette dernière partie vraiment qui est vraiment du n'importe quoi, ils se sont lâchés. Alors ça, c'est créatif. Ça, au niveau mise en scène, c'est bon. Le Spielberg, il s'est plus restreint. C'est bon, c'est la porte ouverte à tout. Par contre, au niveau implication, j'ai décroché franchement la dernière demi-heure. Je me suis dit bon, allez, c'est bon, finissez le truc. C'était bien parti. Je te gâche pas ton plaisir du sport, tu y vas demain, tu me diras. Tu y vas avec les Schtroumpfs.
Oui, bien sûr.
Bon, ok. Eh ben, écoute, bon film. Que dire de plus? Daniel Craig, excellent en double rôle, Saccharine, Rackham le Rouge. Un duel de cap et d'épée à la fin, ne manquez pas ça, entre Haddock et Rackham Junior, qui fonctionne à fond les manettes. Donc voilà, Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne. Je pense que ce n'est pas le chef-d'œuvre annoncé de Spielberg, comme il a été beaucoup dit un peu à droite à gauche. Je pense que ce n'est pas non plus le film ultime avec cette technique de tournage là. Je pense que ça, c'est un peu comme, on va dire que ça ouvre des nouvelles perspectives, des nouvelles possibilités. Dans le sens où le public va vraiment s'approprier cette technique là, il va se dire ah d'accord, on peut aller voir des films qui sont pas du Pôle Express ou des acteurs avec le regard vide, non d'accord, on peut faire ça, donc ils vont aller le voir. Mais c'est pas aussi révolutionnaire et définitif qu'Avatar. Avatar, ça pêchait par son scénario. Par contre, au niveau implication, au niveau mise en scène, au niveau plantage d'univers, ça avait rien à voir. On voit que Cameron a plus trouvé des choses à dire avec cette technique-là que Spielberg. Mais Spielberg, c'est quand même quelqu'un, au travers d'interviews, au travers de reportages que j'avais lus, c'est quand même quelqu'un qui est très attaché à la mise en scène à l'ancienne. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait plaisir avec Jackson sur ce tournage-là, mais qui nécessairement ne va pas revenir vers cette technique systématiquement pour d'autres films, alors que Zemeckis, c'est l'inverse. Zemeckis, il a découvert ça, c'est bon. Alors... Par contre, les films de Zemeckis n'ont pas eu le succès escompté. J'ai cru voir que la structure qu'il avait montée pour faire exclusivement des films avec cette technique-là a été fermée par son principal financier à Hollywood. Donc on va voir la suite. Voilà, Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne. Sachez que le second film sera réalisé par Peter Jackson après son
retour. Quand il en aura fini avec
Bilbo le Hobbit.
Ouais, voilà. dont on a vu les décors et premières images qui sont prometteurs finalement. Alors, malgré les aléas de production.
Moi j'ai pas vu du tout les images de Bilbo le Hobbit. Sachez que le prochain.
Non, c'est le making of qu'il a montré. Ah, tout ça, c'était à ça dont je faisais.
D'accord.
Allusion.
Et donc le prochain Tintin sera adapté du diptyque Les Sept Boules de Cristal, Le Temple du Soleil. Qui a une grosse matière à faire du bon shoot cinéma dans la tête. Hein. Oui.
Voilà. Donc voilà, Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne, par Steven Spielberg.
C'est marrant, ce thème-là me fait penser, tu vois, à Stargate, je sais pas pourquoi.
Oui.
Il y a vraiment il y a vraiment des mecs qui se font pas chier en écrivant la bande son, hein.
Bah, John Williams, quand tu es toi-même compositeur de ce film, tu ne peux pas ignorer ce qu'a fait John Williams.
Oui, c'est clair. Je pense qu'on va parler bonus maintenant.
Oui, bonus, même bonus cauchemardesque.
When life was so tender and happy. FMR 89.1 MHz.
Alors, on va parler d'un bonus, d'un making-of d'un film, du sport parlé du film il y a pas longtemps. Et le making-of s'appelle...
Ouais, qui passait à la télé, ouais.
Et le making-of s'appelle Fucking Kassovitz.
Et je regrette, je voulais le faire, j'ai pas eu le temps, mais je voulais prendre justement cette réplique où il disait « Je veux que l'on m'appelle Fucking
Kassovitz ». Non, il dit il prend la parole en plein milieu du tournage alors que ça, c'est la merde infâme, et il dit il conclut son speech en disant I'm not Orson Welles, I'm not Steven Spielberg, I'm fucking Mathieu Kassovitz. Voilà, comme pour s'excuser de n'être juste qu'un petit français qui débarque à Hollywood. Il s'agit du making of du film Babylon AD, un making of qui dure approximativement 57 minutes et réalisé par François-Régis Jeanne.
Et apparemment diffusé alors que la production n'est pas terminée. Donc peut-être qu'il y aurait eu des éléments supplémentaires, peut-être qu'il aurait dû sortir.
Je sais pas, ça je sais pas. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est disponible sur Dailymotion et qu'il est en accès libre sur un délai limité. Donc si vous voulez le voir, profitez du week-end.
À noter, parce que notre cher président qui tient tant à sauvegarder la culture et qui a dit mort au streaming, non, ça semble être légal, puisque c'est Mathieu Kassovitz lui-même. Oui, sur le compte officiel de Mathieu Kassovitz, donc il est présent sur Dailymotion.
Voilà, donc il le met aussi à l'occasion de la sortie de L'Ordre et la Morale, son nouveau film. D'ailleurs, je crois que c'est le seul film qu'il a fait depuis Babylon AD. Hein.
Peut-être.
Ouais.
Ah bon, c'est probable.
Voilà. Donc, un making-of qui a été posté le 8 novembre dernier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? C'est un tournage de merde. Alors, qu'est-ce que... On pense aussi à Lost in La Mancha. Sauf que Lost in La Mancha, le calvaire s'est soldé au bout d'une semaine. Et le film ne s'est pas fait. Et les images...
Une semaine de tournage, parce qu'il y avait justement toute la préparation déjà où ça commençait à merder. Voilà.
Et les images auguraient d'un film grandiose. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le tournage s'est prolongé. Plusieurs semaines de tournage. Tournage s'est mal passé à tous les points. Et les images n'augurent pas vraiment d'un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, le film est sorti, ça n'en est pas un de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Je me suis fait un petit listing au fur et à mesure que je regardais le film. On a Vin Diesel qui arrive sur le tournage pas du tout entraîné. C'est-à-dire que le mec, il arrive en touriste.
Voilà, alors qu'il a un rôle très physique.
Oui, c'est Vin Diesel, on va pas le prendre pour faire du film d'auteur de toute façon. Donc il arrive pour faire de la baston, pour faire de castagne, il est pas entraîné. Il a une baston dans une cage avec Jérôme Le Banner dans un free fight. Jérôme Le Banner qui est juste un sportif accompli. C'est quelqu'un qui est quand même dans la
gueule. C'est le champion du K1. C'est quelqu'un justement qui est habitué vraiment au sport de combat avec une étreinte physique assez importante et tout le reste. Hein.
Ah, donc lui, il est entraîné par contre. Et donc, suite au combat, en fait, normalement, il doit prendre Vin Diesel sur ses épaules et lui faire une prise de catch. Et Vin Diesel qui doit doit tomber d'une certaine manière, puisque de toute façon, il aurait dû répéter le combat. Et Jérôme Le Banner, voyant que Vin Diesel est en touriste sur ses épaules, essaie de le rattraper et se pète les ligaments du genou. Voilà. Là, sur le coup, on a vu que Diesel était un peu penaud. on a vu quand même. Hein, voilà. Les décors. C'est un foirage total. Parce qu'en plus, c'est ponctué de retours, de témoignages a posteriori par les principaux acteurs, c'est-à-dire Kassovitz, Mélanie Thierry, l'actrice, un producteur, le coordinateur des cascades. Et Kassovitz revient dessus, il dit « Ouais, en fait, je vois les créateurs des décors, et puis ils me disent « le décor sera prêt dans 3 semaines. »« Ouais, mais on tourne dans 15 jours, qu'est-ce qu'on fait ?»« Ah !»
Et alors, on voit la mine déconfite, puisque tout se passe en direct, puisque c'est la caméra les prises ne sont pas refaites. Hein. On voit la réaction vraiment de Kassovitz découvrant les décors. Et il voit que le décor qui est censé être la maison, le taudis dans lequel vit Vin Diesel, en fait, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de magazine jeté, il n'y a pas de...
T'as juste une chaise, une table, on a barbouillé les murs, point barre. Là, il est là, il a dit, mais faites-moi sécher du linge. C'est hallucinant.
Donc faites-moi, il dit, faites-moi sécher du linge, il n'y a pas un cendrier plein, il n'y a pas des posters, il n'y a pas des trucs qui traînent partout. Alors déjà, il commence à péter un câble, et ce n'est que le début du tournage, puisque là, pour l'instant, c'est les premières scènes. Ensuite, il y a un technicien qui lui dit, finalement, on n'a pas trouvé assez de poussière pour faire le décor, mais vous pouvez m'en trouver ou pas? Oui, je peux en mettre plein la vue si vous voulez. Là, il y a une scène d'exposition tournée avec Michel Yeo, et là, tout d'un coup, il y a une partie du décor qui se casse la gueule avec plein de poussière. Tout le monde est paniqué, mais qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, tu as des incompétences notoires de techniciens, de collaborateurs, et puis il y a aussi des impondérables du tournage.
Il faut expliquer une chose, c'est que en fait, les explosifs, puisque c'est pas une exposition, c'est une explosion, voilà. On décollé à cause d'une interférence d'un téléphone portable. Si vous voyez les micros que l'on a en studio, on a des prises qui sont assez grosses, et dedans les câbles sont blindés pour éviter ça. C'est pour ça que maintenant on peut laisser les téléphones allumés, on n'a pas de problème, etc. Et normalement, c'est ce qu'on utilise pour le moins de feux d'artifice du 14 juillet pour éviter que vous avez des trucs qui partent beaucoup trop tôt. Et quand tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour commander leur truc, tu te dis, oh putain, c'est à l'économie. C'est à partir de là, tu sais que c'est à l'économie.
C'est à moi ? Ok.
Pardon.
Donc, quand je disais les scènes d'exposition, c'est bien sûr les scènes de dialogue. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Quand Kassovitz découvre les casques futuristes fabriqués, donc il voit que la production a donné d'autres ordres que les siens pour faire les casques futuristes. Donc, l'accessoiriste lui dit « Ah non, mais c'est la production. » Donc, Kassovitz pète absolument un câble en direct. Il lui dit « Non, je suis le patron. Si la production te dit autre chose, non, c'est moi le patron. Tu suis mes ordres à moi. » Il lui prend son casque, il le rebalance sur la table. Il lui dit « Non, c'est pas ce que je veux. » Il prend tous les concept art, les feuilles qui sont destinées à être dans des artbooks, il les roule en paperasse, il en fait une boulette, il le jette à la gueule de l'autre. Donc déjà, tu vois que Kassovitz, déjà, il était dans une phase où il était vraiment super énervé. Ce qu'il y a de frappant aussi, c'est que on voit on le voit maigrir à vue d'œil. Une fois il a la barbe, une fois il a le crâne rasé. On voit qu'il sur ses épaules, on voit toute la misère du monde, le pauvre. Il on sait même pas comment il fait pour supporter toutes ces pressions.
Physiquement, il est pas bien. Hein.
Vin Diesel. Les collaborateurs témoignent, il dit bon, Vin Diesel est arrivé sur le premier jour, il était super bien, et on sait pas ce qui se passe le deuxième jour, il revient en faisant la gueule, et ça va être comme ça pendant toute la fin du tournage. Ce qui fait que Vin Diesel devait faire plein de scènes de baston, il veut pas les faire. Et donc Mélanie Thierry, l'actrice, en fait, tous les collaborateurs, les acteurs, les techniciens sont tous relayés dans la caravane de Vin Diesel pour essayer de le convaincre de faire ce qui avait marqué dans le scénario. C'est hallucinant. Mélanie Thierry qui a quand même un jugement assez froid et imparable sur la logique de tournage, qui dit bah, Kassovitz, il est arrivé, il est bien gentil, mais déjà c'est quelqu'un qui refuse de faire, qui c'est pas son truc de faire les répétitions autour d'une table avec les acteurs, donc il compte sur l'improvisation au dernier moment. Sauf que tu fais pas un film avec autant de millions de dollars en jeu comme tu fais un court-métrage entre potes.
C'est un peu d'ailleurs ce qui est confirmé par le producteur américain qui dit que de ce côté-là, ils n'avaient pas assez de retours, ils ne savaient pas vers où ils allaient. Et que c'est aussi pour ça que des fois, ils bloquaient une partie des fonds.
Ensuite, on voit qu'ils font deux semaines de break pour écrire le scénario. Ils virent le premier scénariste, ils engagent un autre gars pour restructurer le scénario. À cela s'ajoute un pétage de plomb également de Vin Diesel qui prend tout le monde à partie en disant « c'est mal écrit ». C'est mal foutu, je crois pas au projet, je vois que plein de gens ne croient pas au projet, il faut réécrire tout ça. Donc 3 semaines de break. Entre temps, la fausse neige qu'ils avaient installée sur la place principale qui était censée être le New York futuriste, la neige a séché, donc c'est juste du marronnasse à la place. Ils ont fait une scène avec le sous-marin qui sort de la glace, évidemment ça n'a pas été au préalable validé par Kassovitz, donc ils voient in situ le décor déjà fait sans avoir jamais vu un croquis ou une ébauche de dessin. Ça, c'est super. Et à la fin, évidemment, je vous en passe des meilleurs. Kassovitz qui lui-même se met en retrait du tournage en disant, de toute façon, vous avez qu'à me virer, me donner mon chèque. Je rentre à Paris, j'insulte tout le monde, je suis le roi des Français, puis vous, vous sortez le film, on n'en sortira pas sinon. Donc, il commence à faire la gueule, il se retranche dans sa caravane avec ses bras droits. Et là, on voit le réalisateur seconde équipe qui est sommé de terminer le film avec Vin Diesel qui s'amène profitant de la présence des gars de la compagnie d'assurance en disant « Oh, le budget a été rallongé puisque le tournage a débordé, donc nous sommes là. » Vin Diesel s'amène avec toute la nuée de producteurs, plein de gens avec lui qui dit « Bon, on va réécrire la scène. » Kassovitz qui est en train de promener son chien qui voit le tournage se faire sans lui, qui improvise des effets spéciaux avec du second degré face à la caméra du making-of en train de brûler un papier du scénario en mettant par-dessus l'écran en disant « Hey, regardez, on peut faire des CGI en direct de son combo ». L'actrice qui refuse de faire des plans s'il n'y a pas Kassovitz, donc elle intime l'ordre à Kassovitz de reprendre les mains du projet en disant « Moi, je tourne rien si t'es pas là, donc ça veut dire que c'est la merde si t'es pas là. » Donc c'est à cause de Mélanie Thierry que Kassovitz revient. Évidemment, à la fin, on voit Kassovitz complètement triste, atterré par les proportions que ça a pris. Il dit « Moi, j'ai fait le film que je voulais à 50% et j'attends toujours qu'on me dise où j'ai merdé. » Et là, gros blanc, on voit le môme qui est blessé, il réfléchit, il dit « Non, non. Je vois pas où j'ai merdé. » Et ça se finit comme ça. C'est-à-dire, c'est le gars qui... On sait pas trop pourquoi il s'est embarqué dans cette galère. Qu'il aurait dû s'improviser réalisateur de pub avant, parce que Jean-Pierre Jeunet, il y a pas de raison que lui s'est marché avec Alien 4. Je pense aussi qu'il a été protégé par Sigourney Weaver, qui a fait pas mal d'écrans, mais si t'es pas soumis à des contraintes de pub avant, je pense que Kassovitz, il était resté dans son trip... Assassin, La Haine et les films River propres qu'il faisait ici où il avait des pleins pouvoirs, c'était lui boss.
Est dans une opposition directe entre la vision française où c'est le réalisateur et seul maître à bord, la réalisation américaine où tout passe par le producteur. Et je crois que le meilleur exemple, c'était une autre vidéo où un réalisateur racontait comment Superman a failli devenir et que c'est devenu Wild Wild West.
Oui.
Et c'est la même chose.
Voilà, c'était le témoignage de Kevin Smith. Et donc là, on voit, de toute façon, quand on voit Kassovitz, c'est un peu son univers, sa façon de parler, etc. On sent que c'est quand même le réalisateur écorché vif par excellence. Et jamais tu ne l'imaginerais aux commandes d'un blockbuster américain quand même. Donc il y avait une erreur de casting à la base, de toute façon. J'ai pas vu le film Babylon AD. Toi, du sport, tu l'avais parlé, mais tu l'avais pas vu, c'est ça?
Non.
Il passe à la, tu as dit il passe à la télé?
Ouais, il est passé à la télé il y a 15 jours.
D'accord. Donc, donc si vous avez vu le film et que vous voyez le documentaire, on vous invite à poster vos commentaires.
Ouais, en plus, le film d'action est transposé dans un autre endroit par rapport au bouquin original, hein, où une grande partie de l'action se passe au Canada.
Oui. Alors, il y a une scène aussi ubuesque où il y a Kassovitz qui découvre que les voitures du futur sont des Skoda qui sont pas maquillées. Et pour camoufler.
Surtout, c'est des voitures européennes, c'est des citadines, petits trucs, quoi. C'est des chures de bus.
Puisqu'ils tournent, je crois qu'ils tournent en République tchèque.
Exact. Oui.
Et en fait, ils sont obligés de jouer sur la lumière et de gommer. Par la lumière les formes des voitures pour pas qu'on voit que ce sont des petites citadines européennes alors que c'est censé être de New York futuriste. Donc voilà, absolument tout s'est mis en travers de sa route, de l'acteur principal jusqu'au contract technique, jusqu'à l'absence de coopération et l'incompétence notoire des techniciens. C'est à voir. Pour voir vraiment un peu pour dédouaner Kassovitz du naufrage, mais bon, il n'y a pas de langue de bois non plus puisque les acteurs reconnaissent aussi que Kassovitz n'était pas l'homme de la situation. Voilà, donc fucking Kassovitz.
Rien que pour le plaisir, uniquement le générique, ce qui tient de générique en fait pour ce making of, c'est-à-dire la scène d'introduction de Babylon AD est dessus en surimposition, en dialogue, l'intro de La Haine.
Oui, voilà.
Et là, tu sais que
jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien avec le bruit de l'horloge qui fait d'ailleurs le fil rouge du documentaire. Donc, fucking Kassovitz en libre accès sur Dailymotion. Profitez-en parce que c'est dans un délai limité.
Avant que les avocats s'aperçoivent.
En ligne depuis le 8 novembre, un documentaire d'un peu moins d'une heure réalisé par François-Régis Jeanne.
Du sport, il est 35, qu'est-ce qu'on fait? Télé?
Oui, oui, on fait la télé, oui.
D'accord. Loi des séries, direct?
Ah bah oui, bien sûr.
D'accord. Ah merde. Voilà, ça, ça m'arrive. Ça m'arrive, je me suis encore planté, voilà. Je me suis trompé de touche, ben... hop, ah ben zou, la voilà.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Non, les ordinateurs, c'est comme les Ferrari, quoi. C'est conduit par des types qui sont vachement lents et qui s'imaginent que parce qu'ils ont un engin rapide, ils vont aller plus rapide.
C'est tiré de quoi? D'où ça?
du sport.
D'accord. Que... Ah, d'accord.
Bravo, magnifique.
Alors, un peu de série avec de la nouveauté, carrément. Une nouvelle série estampillée Jerry Bruckheimer.
Yeah.
Et là, qui a l'air d'être un polar assez bien ficelé. Ça s'appelle Dark Blue. Aucun rapport avec le film avec Kurt Russell. Hein, aucun rapport, parce qu'il s'agit d'une histoire de flic infiltré. Et d'ailleurs, Bruckheimer, j'allais dire fidèle à son habitude... s'est fait péter un procès dans la gueule pour Dark Blue
pour plagiat encore une fois.
Voilà.
Tu veux dire piratage?
Non, plagiat parce que.
Tu veux dire piratage? C'est du piratage. Nicolas Sarkozy fait une loi contre le piratage.
parce que l'histoire de ces flics infiltrés, eh bien.
Ça me rappelle quelque chose. Un flic dans la mafia.
Non, pas du tout. C'est pas un plagiat par rapport à une autre série, mais par rapport à une histoire vraie. Et en fait, le type qui a inspiré justement quoi cette histoire de flic infiltré, un vrai flic infiltré, hein, d'ailleurs, une espèce de Donnie Brasco, eh bien, a été approché donc par Bruckheimer et toute sa bande pendant pas mal de temps.
Oh non.
Et ils l'ont bien écouté, raconté son histoire, et après plus de nouvelles, plus rien, que dalle. Et il a découvert par hasard que il y a une nouvelle série de Bruckheimer qui s'appelle Dark Blue. Et puis ah tiens, mais ça ressemble vachement à mon histoire personnelle, ce truc et tout. Et puis voilà, bon, il est pas content le mec. Quoi.
Il est pas crédité au générique.
Ah tu plaisantes.
Pourquoi faire? Oh, bravo.
Alors, un casting qui a l'air sympa avec Dylan McDermott quand même, bon, hein,
ah, oui.
The Practice,
ouais, quand même.
Donc et pas que The Practice, hein, Dylan McDermott, hein, c'est quand même un bon acteur. Nikki Haycox, alors là j'ai pas réussi à me souvenir, puis bon j'ai pas eu le temps de le chercher, mais il me semble qu'elle est dans Galactica, il me semble.
Ah, c'est pas à moi qu'il faut poser la question.
C'est vraiment de mémoire comme ça, donc ça peut se laisser voir. En plus, ce qui est assez bizarre, assez particulier quand même, c'est que généralement, quand c'est du Bruckheimer, ah ben on se dit ouais, bah ça va tomber sur dans l'escarcelle d'une grande chaîne, genre M6, TF1 et tout ça. Ah ben non, là, ce sera sur Série Club que ce sera diffusé.
Ah, c'est sympa.
À partir de demain soir, 20h45. Mais au moins, on est sûr que ça passera dans l'ordre. Ça, c'est déjà une bonne chose.
Ouais.
Hein. Peut-être que ça vaut mieux hein, pour cette histoire.
J'ai cru comprendre d'ailleurs que TF1 allait passer une série qui était hyper attendue. Ils l'ont remontée. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Ça, dans deux semaines, j'ai oublié. On reverra d'ici
ouais,
là.
Oui, mais ça, c'est une habitude et tout. D'ailleurs, j'étais très étonné que cette semaine, dans les kiosques, dans la partie magazine télé, il y ait un gros titre, je crois que c'est... Télé 7 loisirs, un truc comme ça. Enfin bon, tu vois le genre de magazine télé, quoi. Et avec le gros titre, pourquoi TF1 a massacré les experts, hein, genre les experts qui sont en chute libre au niveau terme d'audience. On se demande pourquoi.
Ah oui,
non,
vraiment.
Ce n'est certainement pas parce qu'on les passe dans le désordre. Non, ce n'est certainement pas parce que ça passe quand il n'y a pas de match de foot. Mais non, c'est pas à cause de ça. Mais voyons. Alors. Ouais, ce sont des vrais professionnels là-bas, quoi. Donc Dark Blue, à voir, hein, je pense, quoi. Ça peut être sympathique, quoi. C'est demain soir, donc à 20h40, partir de 20h45 sur Série Club. Série de 10 épisodes pour la première saison, mais ça a fonctionné et une deuxième saison a déjà été tournée avec à nouveau 10 épisodes. Donc, sinon, un petit documentaire sur France 5 vendredi prochain à 21h30 dans la série Empreinte. Ça doit te parler, il me semble. Parce qu'on avait déjà vu de très grands, et là c'est encore un très grand Sampé, dessinateur d'humour.
Le créateur du Petit Nicolas.
Voilà, Petit Nicolas. Donc un documentaire de Patrick Voison, c'est vendredi prochain à 21h30 sur France 5. Sinon, sur Canal+, il n'y a plus les Borgia, donc lundi prochain, 20h50, eh bien, c'est la saison 2 de Braco.
Oh là là. J'ai vu la bande-annonce, comment ça déchire.
Alors, ça peut être intéressant parce que bon, bah, la saison 1 se termine quand même sur un espèce de... Enfin, c'est pas un cliffhanger, mais on se dit, mais merde, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir foutre
alors
après.
Alors là, c'est la dégringolance dans, la, dans le glauque, la violence, parce que faut juste rappeler à la base que ce sont des flics ayant un peu tendance à flirter avec la ligne jaune, mais à la fin de la saison 1,
flirter,
putain, c'est...
Plus qu'à flirter, quoi.
Non, mais au début... Tu te dis, bon, ils ont quand même des circonstances atténuantes.
Ouais.
Mais ils sont tellement dans une logique d'engrenage, mais qu'il va leur être fatal, qu'à la fin de la saison 1, tu te dis, non, c'est plus les flics, c'est pas possible.
Bah non, ils se font gauler, quoi.
Non, mais là, t'as la bande-annonce.
Ils se font gauler.
La saison 2,
tu te dis, bon, bah ok, ils sont tous au trou, y a pas de problème. S'ils font une saison 2 et tout, tu vas aller voir se faire enculer et massacrer en tôle, quoi.
Non, mais là.
Non, il y a une prise d'otage.
Non, mais là, la bande-annonce de la saison 2, c'est qu'ils s'échappent de tôle et qu'ils deviennent des criminels, quand même.
Ah oui, mais c'est ça. Alors, par contre, bon, déjà scénaristiquement, la saison 1, quoi, c'était vraiment très très bien foutu.
Ah, il y avait rien à redire.
Putain,
La saison 2, ils ont dégoté quand même Abdelraouf Dafri, le scénariste de Un Prophète.
Ah oui.
Donc, on peut dire que ça va certainement fonctionner.
Hein, mais il y a toujours Marshall et Schoenderfer aux manettes ou pas?
Ouais, mais enfin, Marshall est vraiment plus produit. Enfin, déjà sur la saison 1, Marshall était producteur exécutif. Hein,
mais il avait réalisé quelques épisodes quand même.
Non.
Non?
Ah non. Ah non.
Ah bon, d'accord.
Ah non. Il était uniquement impliqué comme producteur, hein, Marshall. Attention, hein, c'était son pote là, Franck. Qui s'appelle comment là, Franck, c'est son nom et son prénom, je sais pas, qui a réalisé un film il y a pas si longtemps, qui a sorti un film, un polar, il y a pas si longtemps que
d'accord.
Ça. Qui était le réalisateur de pas mal d'épisodes, hein, de la majeure partie des épisodes. Non, Marshall sur Braco n'est que producteur. Enfin, c'est lui qui a instillé l'idée, tout ça au départ, mais bon, bah, en restant au-dessus, quoi, de la mêlée de toute façon.
Et toi qui es dans le secret des productions télévisuelles, est-ce que tu penses que, est-ce que la série va s'arrêter à la saison 2 ou pas?
Bah, ça, il va falloir.
Est-ce que ça a été annoncé ou pas?
Général, ils annoncent les suites bien après, malheureusement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque Arte a annulé trois suites de séries. Parce que ils ont dit non, finalement on ne va se concentrer que sur les séries que l'on peut passer à 20h35, mais c'est comme d'habitude en France, c'est on annonce les suites de séries pas pendant qu'ils sont en pleine production de la saison, mais bien après. Donc c'est bien après que l'on sait si oui ou non c'est pris. C'est très agréable, j'imagine.
Ah, c'est
toi,
génial, ça peut se.
Mais toi à
se
la
se
place
finir.
Des scénaristes,
ouais,
tu
c'est
vois.
Bien, ça se finit sur un cliffhanger, mais tu sais pas s'il y a une suite après. C'est
agréable.
Ouais, mais enfin bon, c'est un système de conception et de travail qui est complètement différent en France par rapport aux États-Unis de toute façon. Hein.
Ouais.
Aux États-Unis, ça peut généralement très bien rebondir. Bon, des fois, c'est un
ce
peu foutraque,
fait...
quoi.
Ouais, mais ce qui fait qu'on attend 4 ans pour la saison suivante, quoi. C'est...
Ouais, mais bon, ça, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est aussi une histoire de pognon, hein. C'est ça aussi, hein. C'est le nerf de la guerre, hein, quand même. Un petit peu. Au niveau série, il y a également M sur M6, les jeudis soirs, c'est The Good Wife. Alors, déjà, la saison 1 était vraiment très très bien. La saison 2, quelques petits changements, on va dire. On continue avec toujours le petit fil rouge des relations entre Chris Knott et Juliana Margulies, la femme et le mari. Là, la donne a un petit peu changé. Au niveau professionnel, elle est acceptée dans son cabinet. Son cabinet a fusionné avec un autre cabinet, donc il y a plus d'interférences, on va dire, au niveau le plus haut. Des deux cabinets associés par rapport aux affaires à traiter, tout ça. Mais par contre, c'est au niveau des caméos que c'est très intéressant. Déjà, pas jeudi dernier, mais il y a 15 jours, la première apparition de Michael J. Fox dans un épisode qui était absolument excellente, où Michael J. Fox, on se rappelle, s'est retiré de la scène publique et de la scène professionnelle parce que il est atteint de la maladie de Parkinson. Donc il a de mal à retenir les dialogues et tout ça. Enfin bon, ok. Hein, bon,
il a surtout des tremblements qu'il a de plus en plus de mal à contrôler.
Et là, bon, bah, c'était déjà étonnant de le revoir dans un rôle à la télé. Et là, en fait, son handicap est utilisé dans le rôle de son personnage et dans le rôle d'un avocat qui est contre, justement, quoi, qui défend les intérêts d'une grosse compagnie pharmaceutique qui est attaquée par une class action. Concernant un produit qui aurait des effets secondaires assez mortels. Il faut signaler que dans le premier épisode, donc, qui a été diffusé 15 jours avec Michael J. Fox, quand on voit l'épisode, on se dit, ah, ici en France, ça nous fait tout de suite penser à quelque chose.
Oh putain.
D'accord. Okay. Sauf que cet épisode avait été diffusé et écrit bien avant que l'affaire Mediator tombe ici en France. Alors bon, est-ce qu'il y a relation de cause à effet? On ne sait pas, on peut pas dire. Hein, j'ai pas cherché pour savoir s'il y avait une... Mais c'est vraiment, il y a des similitudes qui sont vraiment très très frappantes quand même. Et bon, alors il faut savoir aussi que bon, bah, au niveau de la justice américaine, au niveau des procès, ça se passe différemment. Donc on peut dire que à la fin de l'épisode, chacun s'en tire à bon compte, on va dire, hein, que ce soit Michael J. Fox ou le cabinet de Julien Margulies, parce qu'ils obtiennent 30 millions de dollars de dédommagement pour l'ensemble des trucs. Et puis Michael J. Fox, il dit, bon, c'est cool, quoi, parce que bon, la compagnie m'avait dit, tu commences à négocier à partir de 90 millions pour descendre à 50. Alors, ça me fait 15 millions de bonus, je suis content.
Oh, le cynisme à fond.
Ah, mais il est cynique à fond.
À fond.
Et alors, il joue sur son handicap en disant, oh, excusez-moi, j'ai du mal. Enfin, bon, en plus, il est un petit peu tordu comme ça. Enfin, c'est carrément excellent, excellent. Bon, les autres acteurs sont très bons aussi, hein. C'est pas pour rien que Julien Margulies a obtenu l'Emmy Award pour du meilleur rôle dans une comédie dramatique, hein. C'est pas pour rien, quoi, de toute façon, hein. Les autres, tous ceux qui sont à côté, Joe Charles, Chris Noth et tout ça, bah, y a rien à dire, hein. C'est pour ça que cette série est vraiment très très bonne. Et Michael J. Fox revient donc jeudi dans le premier épisode, d'une série de deux ou de trois. La première fois, ils en avaient passé quatre à la file. Alors bon, laissez tomber, quoi, ça va. Là, il y a 15 jours, c'était plus que trois. Jeudi dernier, c'était plus que deux. Là, il y en aura de nouveau trois, dont le premier qui s'appelle, j'ai pas fait exprès, Le Cheval de Troie, avec donc Michael J. Fox. C'est l'épisode 13, donc, de la saison 2, à ne pas louper vraiment, parce que Michael J. Fox fait vraiment une performance vraiment excellente, excellente.
Il est 13h48 sur un poubelle d'air. Excusez-moi, 49 sur le supplément week-end de Radio FMR. Qu'on est bien parti pour un débordement.
Ah ouais, mais attends, on va faire ça vite fait, quoi. On va sabrer quelques trucs quand même. Alors, quelques petites choses à la télé également cette semaine en ce qui concerne les films. Et même une pièce de théâtre ce soir sur Paris Première, pièce de théâtre en direct à 20h50. C'est Le Paradis sur Terre. C'est une pièce de Tennessee Williams. En direct du théâtre Édouard VII de Paris, la mise en scène est de Bernard Murat, donc quand même un bon metteur en scène, avec Johnny Hallyday, Audrey Dana et Julien Cottereau. Donc c'est ce soir en direct.
À voir si Audrey Dana se plantera dans ses répliques, puisqu'elle a eu un malaise sa dernière fois. Ça a tenu 20 minutes.
Bon, on verra, hein, de toute façon. Suivi d'un documentaire sur Johnny Hallyday, c'est notre histoire. Un documentaire de François Ducroux est suivi à 1h du matin par le concert du Parc des Princes de 2003 de Johnny, bien sûr. Demain soir, alors là c'est une soirée sur Arte à ne pas louper quand même, parce que c'est un des meilleurs acteurs du monde qui est à l'honneur sur Arte. Demain, la théma est consacrée à Klaus Kinski, jawohl, avec donc à 20h40 Fitzcarraldo, magnifique, excellent. Excellent, Klaus Kinski, Claudia Cardinal, Peter Berling, l'histoire d'un type complètement allumé, mégalo, bricolo, ingénieur, qui décide de monter un opéra, de fabriquer un opéra à Manaus, en plein jungle amazonienne. Alors c'est énorme, c'est carrément énorme, hein. Il y a la scène où ils font carrément monter des collines à un bateau. Enfin, t'as jamais vu ça. C'est normal, c'est Werner Herzog, c'est grand, c'est énorme. Bon, je préfère comme film, comme combinaison Herzog-Kinski, je préfère Aguirre ou La Colère de Dieu, parce que bon, c'est le film qui a révélé vraiment les deux, hein, l'acteur et le metteur en scène. Mais Fitzcarraldo, quoi, il faut savoir qu'ils ont tourné quatre films ensemble. Et ils ont également tourné Nosferatu. Ils ont tourné donc Fitzcarraldo, ils ont tourné Wojciech et Cobra Verde. Mais Cobra Verde, c'est une grosse merde, laisse tomber, quoi, c'est pas la peine. Enfin,
en plus, sur les tournages, ils se supportaient pas.
Ah, et oui, mais parce que à la fin de Fitzcarraldo, qui dure 2h30, il y a le documentaire à 23h15 de Werner Herzog qui s'appelle Ennemi Intime.
Ah oui, c'est énorme.
Et qui est justement l'histoire de la relation entre Kinski et Werner Herzog. Et là, bon, bah, ok, y a rien à dire. À Herzog, vite fait, quoi, c'est quand même, l'homme qui s'appelait pas Herzog au départ, hein, il est un petit peu immigré, il s'appelait Stipetich, et qui a commencé sa carrière. Et là, c'est, il faut voir les Herzog hein, de la première époque, on va dire. Bon, maintenant, il fait des trucs un petit peu foutraque, quoi, comme là, le truc sur le documentaire sur le monstre du Loch Ness, des trucs comme ça. Bon,
alors, il a fait Bad Lieutenant, Escale à la Nouvelle-Orléans, Nicolas Cage.
Ouais, ouais, mais ça, c'est pour gagner un petit peu de pognon.
Bah,
quoi.
Oui, il fait
mais par contre, ouais. Le début, c'est carrément énorme, quoi, parce que son premier film, c'est un moyen métrage, ça s'appelle Lebenszeichen, scène de vie. Ça, c'est excellent. C'était en 67. En 68, il nous fait Fata Morgana, là aussi, excellent. En 68, en même temps, il fait Ortsfernge Haben, Kein Anfangen. Les nains aussi ont commencé petit. Ça, c'est un énorme film. Énorme film, avec que des nains dedans, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Mm-hmm. Et ça fonctionne à fond, quoi. Ensuite, bien sûr, Aguirre en 72. Ensuite, il fait parallèlement des films et des documentaires. En 74, il fait Jeder für sich und Gott gegen alle. Alors c'est très mal traduit parce que c'est l'énigme de Kaspar Hauser, l'histoire d'un enfant sauvage, mais qui est vraiment très très bon, hein, vraiment très très bon. Alors que Jeder für sich und Gott gegen alle, c'est-à-dire tout pour soi et Dieu contre tout le monde. Il fait aussi Cœur de verre en 76, hein, Hearts of Glass et la balade de Bruno en 77, dans Nosferatu en 78, Wojciech en 79, ça c'est l'opéra hein, bien sûr quoi. Et donc Fitzcarraldo en 81, c'est ça quoi. Et après bon bah ça commence à se déliter. Donc la dernière collaboration avec Cobra Verde, bon vous pouvez le regarder quoi pour Kinski quoi, mais bon vraiment c'est bon, c'est pas top quoi. Enfin c'est demain soir donc hein, Fitzcarraldo sur Arte à partir de 20h40. Surtout suivi de, à 23h15, Ennemi intime, le documentaire de Herzog concernant sa relation avec Kinski.
Ce que j'avais retenu d'Ennemi intime, alors c'est un détail, mais il montrait que Kinski, il avait une manière de se tourner par rapport à la caméra qu'il avait inventée. C'était un geste où il mettait le pied, l'un des deux pieds qui était en opposition totale avec son buste. Et comme ça, en fait, il se tournait quasiment à 360 degrés le buste qui se tournait à 360 degrés oui. Avait, en fonction de la caméra. C'était un mouvement qu'il avait inventé lui-même par rapport
oui mais dans Aguirre d'ailleurs il le fait à pas mal de reprises hein, de toute façon quoi. Et ça rajoute justement au côté inquiétant du personnage et au côté complètement déconcertant du personnage de l'Aguirre quoi. Et c'est là que c'est très très fort hein, de toute façon quoi, parce que bon bah Aguirre c'est un film de comment dire, c'est pas tellement un film d'action. C'est pas tellement un film d'action. Il y a beaucoup de scènes où bon bah on est pris par le paysage, on est pris par la jungle, on est pris par le fleuve, surtout la dernière partie le fleuve. Et, bon, c'est ça qui est plus inquiétant en fait. C'est pas tellement les personnages en eux-mêmes. Les personnages paraissent petits au bout d'un certain moment dans Aguirre, et ce qu'ils sont vraiment d'ailleurs, hein, vu leur quête impossible de trouver de l'or. Enfin bon. mais bon, c'est pour ça que ça fonctionne très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a également lundi sur Paris Première, Suspiria à 22h45 de Dario Argento, suivi à 0h25 du Giallo, un documentaire, une horreur érotique hein, qui est consacré justement au Giallo italien. Mais il y a également lundi sur Planète Plus, ça s'appelle Planète Plus maintenant, c'était Planète avant, l'excellent documentaire de James Toback à 20h40. Sur Tyson. Et là, c'est également à ne pas louper parce que là, on apprend vraiment beaucoup de choses sur Tyson. On est resté sur une image de Tyson avec tous ses débordements, avec tout ça. Mais on se dit que ce type est un idiot fini, alors qu'en fait, bon, il a quand même un petit peu de jugeote et on se rend compte qu'il a quand même un petit peu joué avec son personnage. Et James Tomac, ok, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même un excellent documentariste. C'est un journaliste à la base. On a également un petit peu plus loin les bouses du mercredi bien sûr hein, sur Énergie 12 avec de Steven Seagal. Tout d'abord un piège en eau profonde qui est pas si mal que ça hein, de Anthony Cox avec Christine Adams, Steven Seagal bien sûr et Vinnie Jones. Donc suivi à 22h15 de Mercenaries, ça c'est pas bien du tout quoi, avec Luke Goss quand même hein, aux côtés de Steven Seagal. Mais alors, peut-être qu'on peut se tourner sur le navet improbable de science-fiction sur AB1, mercredi prochain également, à 20h40, Termination Point de Jason Bourke.
Oh, je suis sûr qu'il y a Martin Dacascos dedans.
Non.
Michael Dudikoff.
Non. Stéphanie Von Pitten, Jason Priestley.
Oh là là.
Et Lou Diamond Phillips.
Ah oui.
Alors, redevenons un petit peu plus sérieux. Jeudi sur Arte, un excellent film qui est un petit peu passé inaperçu et qui n'a été diffusé que dans les salles d'arts et essais chez nous ici à Toulouse, c'est This is England de Shane Meadows en 2007, l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans une banlieue merdique, dans une famille merdique, le père il est parti, il est mort et tout, et lui ben, commence à frayer avec une bande de hooligans. Bref, un documentaire sur la situation économique et politique actuellement en Angleterre. Et ça, c'est rentre dedans, c'est assez énorme. Et jeudi, il y a également à 22h10 sur RTL9, La main sur le berceau de Curtis Hanson.
Grand classique.
Excellent film avec Ernie Hudson, bien sûr. Et également La belle Assiora, Rebecca de Mornay et Julianne Moore. Sur TCM jeudi prochain également, un chef-d'œuvre de Richard Brooks, quand on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, bah, à l'occasion de Tennessee Williams d'ailleurs, c'est le 200 froid de tiré d'un bouquin de Truman Capote, d'après une histoire vraie, interprétée par Robert Blake. Ah bah ouais, on connaît Robert Blake, hein, le mec qui a eu quelques histoires avec un flingue qui a descendu une nana il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, et à l'époque, il était jeune, c'était un jeune premier, hein, il était beau, magnifique et tout. Et bon, c'est une histoire vraie, donc, de deux jeunes vagabonds qui sont rentrés dans une maison comme ça, ils ont massacré toute une famille et tout. Quoi. Alors bon, c'est vraiment très glauque et tout. C'est un film qui date de 68, mais qui est filmé en noir et blanc. Et là, bon, bah, vraiment, c'est le genre de film où tu ressors pas tout à fait indemne, quoi. Tu te dis, bon, ouais, quand même, truc. Alors qu'il n'y a pas d'artifice dedans, il n'y a rien, il n'y a pas de sang, il y a pas, c'est vraiment, c'est un flashback en plus, hein, c'est un film qui est raconté, où les gens, où les flics sont sur place et vont raconter l'histoire et vont faire raconter, vont faire avouer les jeunes et tout, pourquoi vous avez fait ça et tout, enfin, bon, c'est assez énorme, c'est bien foutu. Richard Brooks, donc, c'est sur TCM jeudi prochain, 20h40, 200 froid. Et on termine avec vendredi, sur RTL9 à 22h35, le film asiatique de RTL du vendredi soir, Le Prince et l'Arnaqueur de Liu Xiaolong, c'est une kung-fu comédie, en costume, avec Wang Yue, Gordon Liu, Lo Lie, enfin bon, du bon monde.
C'est l'âge d'or de la Shaw Brothers.
Ouais, ça fonctionne. Sur Polar, une petite curiosité, un polar anglais des années 60 de Michael Truman, L'étrange mort de Miss Gray, avec l'excellent Ian Hendry, avec Ronald Fraser, avec Margaret Johnson, et avec Jeremy Brett.
Ah. Oui,
jeune, bah forcément, forcément jeune. Donc à voir. Hein. Et on termine avec sur FX également vendredi prochain à 21h un petit péplum, Percé l'invincible d'Alberto Di Martino avec le grand Rex Harrison.
Yes. D'ailleurs, Percé qu'on retrouve dans Les Immortels, le film qui sort bientôt dans la salle, si c'est pas déjà fait, je crois. Avec une esthétique qui rappelle 300.
Le 23 novembre, mon
gars. Bah voilà.
Merci pour la précision, ce qui me permet de passer ceci.
Voilà,
il est 14h. Heures. Et oh, donc, il n'y aura pas.
Le record du monde.
Il y a une fois où on a débordé de. Après 15h. Mais là on va peut-être éviter puisque la radio sera en direct de Colomiers dans une heure. Donc voilà. Hein ? Quand tu auras terminé, voilà. Ça c'est du sport qui me le dit. Mais néanmoins, je suppose que pendant ces deux heures, vous n'avez pas forcément tout écouté. Vous êtes arrivé en cours d'émission. Si vous avez écouté en entier, vous n'avez pas manqué ceci.
Et oui, donc nous avions des barbares non grata, une intervention de Picolomier, de Nicolas de Prater, du rouge et noir, de la calandre old school, du roman photo bien profond qui dégouline, une houppette dans l'eau, un cauchemar chez les Tchèques, une histoire de Ferrari et d'ordinateur par du sport, le nouvel accro numérique, du cynisme agité et des Allemands allumés dans la jungle.
Ah, j'ai coupé mon PC trop tôt, j'ai été trop bête. Ça arrive. Nom d'un coup de fil. Vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos émissions et aussi jouer à des quiz stupides. Laissez vos commentaires. N'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Pas de fond, ça veut dire que c'est un peu plus calme et tout finalement, hein, plutôt que le truc speed. Hein. Mais dans le prochain épisode... Oh mon Dieu, mais c'est TGS ! On va tous mourir !
C'est clair !
Allez !
On sera donc avec toute l'équipe. N'oubliez pas qu'en ce moment, d'ailleurs, il y a le festival Extrême Cinéma.
Voilà, donc la thématique, c'est l'hôpital et ses fantasmes. Et nous allons vous dire deux mots sur la programmation d'aujourd'hui, de ce week-end. Donc aujourd'hui, à partir de 15h, La fiancée de Frankenstein. À 15h15, Hôpital de Frédéric Wiseman. À 17h, L'ange rouge de Yasuzo Masumura. Je tourne la page. À 17h15, toujours la Toubib du régiment. À 19h, Symbol de Hitoshi Matsumoto. 19h15, Cas de conscience de Richard Brooks. Et ce soir, c'est la nuit détraquée avec Il est une fois le diable de Bernard Launois, Clonk de Bertrand Lenclos, Soudain les monstres de Bert Gordon, Calibre 9 de Jean-Christian Tassi, Evil Dead de Sam Raimi, Aftermath de Nacho Cerda, Dolorosa de Christophe Debac, Miashm de Sylvain Potel et David Oost-Prust, et The Operation de Jacob Pander. Et tel que
arrivé à l'avance, et les croissants seront saignants, hein, ce qu'on m'a dit demain matin.
Et tel que nous les connaissons, je pense qu'il y aura également un film surprise.
On a tout débranché, le PC, le casque, j'ai plus rien.
Et du sport nous a apporté un fascicule, donc des étoiles et des ailes, c'est la deuxième
édition. Oui, c'est un festival qui a lieu dans la banlieue de Toulouse ce week-end.
Voilà, le
à
festival
Blagnac.
Aérospatial de l'image et du livre. Tout à fait à Blagnac, à l'aérogare d'affaires du 17 au 20 novembre. C'est l'entrée est gratuite et l'invité, le parrain prestigieux, c'est Jacques Perrin.
Yes. Oh,
voilà, donc c'est au-dessus de spectacle Petit Prince à l'exposition Saint-Exupéry.
Voilà, il y a des salles d'expo, il y a des salles où on peut choper des livres et tout, comme il y a également sur...
Oh, on peut choper des livres.
Non, il y a également sur le parking et tout, il y a des avions de légende qui sont entreposés, donc vous pouvez voir les avions en grandeur nature, le Concorde, la 350, plus des avions un petit peu plus anciens, le Super Guppy aussi, tout ça, mais en grandeur nature. Hein, donc, c'est peut-être sympa comme ça, quoi, histoire d'emmener les gosses, quoi, histoire de voir, oh, regarde le gros avion.
Je peux monter ?
Non ! Demande au monsieur. 14h02, minutes, c'est toujours Radio FMR. Et c'est un Hank Williams, comme d'habitude, qui commence cette programmation musicale. Et c'est une spéciale dédicace au Festival de Colomiers.